Bonus.
Trax.
Bonsoir. Merci. En attendant que tout le monde s'installe, je vais vous faire une toute petite présentation de la raison pour laquelle on est là. Donc, déjà, merci à tous de rester et d'avoir assisté à cette séance de Milady. Pendant une petite heure, on va donc commenter le film qu'on vient de voir et de manière plus générale, les deux parties de la proposition filmique de Martin Bourboulon. En préambule, je voulais juste vous dire que vous assistez à un nouvel événement co-organisé avec le collectif des Dumariol et par le podcast Hommage Collatéral. Ceci est un indice du nombre de personnes que comprend le collectif. Il va vous être présenté dans un instant. Moi, je voulais juste vous dire que Hommage Collatéral, donc, c'est un podcast qui revient en longueur sur la carrière de très grands noms de la culture pop. On a fait des émissions sur George Lucas, sur Neil Gaiman, Alan Moore, les sœurs Wachowski, Yoshihiro Togashi notamment. Il y a quelques années de ça, on avait fait un double numéro sur la vie et l'œuvre d'Alexandre Dumas, qu'on avait qualifié de père fondateur de la culture pop gauloise. Et au printemps dernier, à l'occasion de la sortie de la première partie, on avait fait donc une séance, c'était dans le 15e, au Majestic Passy, et avec le même collectif, on avait été un peu salé. Juste un peu. On va voir dans quelques instants ce qu'il en sera de...
Ils auraient... Cette
fois, ils l'ont pas oublié.
Parce que c'était pas dans le premier film, en fait. Le premier film, ils avaient crédité Dumas nulle part.
Et donc, on ne comptait pas forcément faire une intervention pour ce deuxième film, mais il se trouve que l'UGC Cinécité nous a invités et on les remercie. Donc, merci à vous aussi d'assister à cette intervention. Je vais juste présenter rapidement donc, les gens qui m'accompagnent. Je vous avais dit en préambule tout à l'heure qu'on avait une scénariste, un historien et une spécialiste des adaptations d'Alexandre Dumas en général. Les voici. Je commence tout à ma droite. Il y a Ruthilde. Autrice entre autres du webtoon, allez-y. Les fans sont là. Donc, autrice entre autres du webtoon Colossal, dispo sur la plateforme du même nom. La version papier est en cours de publication chez Jungle. Le tome 4 arrive en janvier. Tu as plusieurs autres BD dans ton escarcelle et notamment des BD historiques. Tu seras donc ce soir notre référente en termes de storytelling et de caractérisation du personnage. Et tu es justement membre cofondatrice des Dumariol, si tu veux le présenter en quelques mots.
Oui. C'était avant que le film soit annoncé, donc je tiens à dire qu'on n'est pas des suiveurs, on est des prédécesseurs.
Ça fait 2 ans.
Donc les Dumariol, c'est un collectif d'artistes qui a été monté avec des animateurs, des illustrateurs, des BDastes, etc., dont je fais partie, qui a été fondée en été 2021, alors que Juliette Brocal, qui est une illustratrice, voulait relire Le Comte de Monte Cristo, et je lui ai dit non, tu lis Les Trois Mousquetaires, et tu lis 20 ans après. Et à partir de là, elle a commencé à poster des mèmes sur Twitter, on a bien déliré, ça s'est transformé en club de lecture sur Messenger, ensuite c'est devenu un Discord, où il y a maintenant 300 personnes qui viennent de Pologne, des États-Unis, d'Italie, d'Angleterre, de France, bien entendu, principalement. Donc c'est un joli petit succès qui date maintenant d'au moins 2 ans, quoi. Et plus récemment, on a été mis à l'honneur dans Le Monde, le journal Le Monde, qui a parlé de nous. Ce qui est quand même fou pour un délire entre potes où on s'est formé autour des Trois Mousquetaires. En déplorant justement que dans plein d'adaptations, ça ne voyait pas ce qu'on voyait nous dans le bouquin. Donc évidemment, ces deux adaptations, enfin ce diptyque en fait partie de ce manque de ce qu'on voit nous dans le bouquin et que eux ils ont clairement pas vu. Donc c'est très marrant et en fait il y a une espèce de bataille rangée qui s'est créée où d'un côté il y avait nous les Dumariol et de l'autre il y avait un peu ce diptyque de Martin Bourboulon qui propose une certaine vision mais qui est vraiment totalement à l'opposé de la nôtre. Voilà.
Merci Rutil. À ta gauche, Nicolas Bernard, salut. Tu as deux casquettes, tu es avocat le jour et historien la nuit, et c'est cette seconde casquette qui nous intéresse ce soir. Tu es l'auteur de deux ouvrages aux éditions Talendier, bientôt trois, sur la Seconde Guerre mondiale qui est ta période de prédilection, mais tu en as d'autres, et notamment le 17e siècle à cause de ce bon vieux Alexandre Dumas. Merci beaucoup d'être là.
Merci de m'inviter.
Et à ma droite, des applaudissements pour tout le monde, il n'y a pas que Rutil. Et à ma droite, Sarah Lodz, qui est également fan artiste, comme bon nombre de Dumariol. Tu as beaucoup écrit dans différents fandoms, hein. Tu as écrit deux romans originaux depuis. Toi aussi, tu es parmi nous, parce que tu es une grande connaissance de l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais aussi des nombreuses adaptations et pas que des mousquetaires. Merci, Sarah.
Merci à toi, César, de m'accueillir encore une fois.
Sarah et Nicolas, qui sont tous à ma droite, faisaient partie du double épisode sur Alexandre Dumas qui fait un peu plus de 4 heures, si vous avez du temps, pendant les fêtes. Et Rutil nous a rejoint pendant ce fameux supplément. Il y a eu aussi une conférence qu'on a fait au Club de l'Étoile il y a quelques jours de cela pour parler des adaptations de Dumas en général. Je vous invite à retrouver tout ça sur le flux du podcast. Je vais entrer tout de suite dans le vif.
Attends, on a l'invité mystère.
Ah, tu veux tout de suite parler ? Parce que ouais. Même moi, je ne sais pas qui c'est l'invité mystère.
J'ai un invité mystère, j'ai amené avec moi un invité mystère.
Elle m'a annoncé ça il y a 3 heures. Hein, donc c'est... Voilà. Bon, les non-initiés ne comprendront pas tout de suite. Je pense qu'il faut que tu précises, Rutil. Voilà, je suis ravi qu'on perde du temps pour ça.
Oui, bonjour, c'est moi, Vincent Cassel.
Non, tu parles trop clairement par rapport Merci. Au Vincent Cassel du film.
Pardon.
Bon, pour les gens
qui en ont un mot sur deux.
Pour les gens qui nous écouteront, elle vient de sortir un balai et un chapeau. Et
non,
voilà.
C'est une serpillière. C'est important pour l'histoire parce que c'est un peu la perruque que Vincent Cassel porte dans le film. Alors,
elle
c'est
est
pas
propre,
que Vincent Cassel. Hein. C'est une célébrité dans le fandom des Dumariol parce qu'il s'agit de Cassos. C'est notre serpillière. Et Cassos est un emoji sur notre Discord. On l'utilise très régulièrement. Donc les Dumariol le reconnaîtront. Mais c'est vraiment cette serpillière avec ce chapeau qu'on utilise très régulièrement pour parler notamment du film.
On salue Cassos.
César, il reste combien de temps maintenant là?
Juste avant de vous poser des questions et vous demander votre avis, je vais m'adresser à la salle et aux gens présents. J'ai 3 questions à vous poser. Par applaudissement, s'il vous plaît, qui a lu le roman d'Alexandre Dumas ? Qui a aimé la première partie ? Ok. Qui a aimé la seconde ? Ok, c'est assez stable. Question simple pour commencer, je vais vous demander en quelques mots de partager votre avis sur le double film. Sarah, tu commences.
Bon, personnellement, effectivement, je n'avais pas aimé le premier film et spontanément, je ne serais pas allé voir ce second si on n'avait pas eu cette occasion de faire un podcast avec l'UGC. En soi, pour commencer par ce qui est positif, je pense que c'est un film légèrement meilleur que le précédent. Je l'ai trouvé mieux réalisé, j'ai trouvé que certaines performances, dont celle d'Eva Green, était meilleure que dans le premier film, probablement parce qu'elle avait plus de choses à jouer. Après, je pense que c'est un film qui, en toute honnêteté, qui n'est pas pour moi, parce que moi, ce que j'attends, ce que je pense intrinsèquement que doit être un film sur les trois mousquetaires, c'est que ça doit être un buddy movie. Et ce film-là n'est pas un buddy movie, d'ailleurs ils ne sont même pas buddy. Et donc, en toute honnêteté, moi, j'attends un film sur des personnages, sur de l'amitié, sur des relations, sur une certaine profondeur psychologique. Donc, j'ai été déçu par ce film. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais ce n'était pas vraiment une surprise.
Nico ?
Pour relayer ce que disait Sarah, moi, je ne suis pas forcément, enfin, pour revenir un peu sur ma présentation aussi, je ne suis pas forcément un puriste absolu. Je ne cherche pas une adaptation qui soit fidèle. On en a déjà parlé au cours du dernier podcast que je vous invite à écouter. Je considère que quelqu'un qui adapte Dumas en BD, en roman, en film, peut faire absolument ce qu'il veut tant que l'œuvre est divertissante, tant que l'œuvre est bonne. On peut en faire un buddy movie, on peut en faire autre chose. Tant que ça me plaît, tout va bien. Le film, là, j'ai pas beaucoup aimé, hein, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai pas beaucoup aimé la première partie, hein, de cette saga. Je n'ai pas davantage beaucoup aimé cette deuxième œuvre, même si, pour être juste, je lui trouve davantage de qualités. Mais ce sont des qualités qui sont en fait des accessoires qui s'annexent plus ou moins au principal, qui malheureusement pour moi est un échec. Ces qualités, ce sont les suivantes. Une musique de film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Guillaume Roussel, hein, je crois que c'est lui qui fait le soundtrack. Le casting, je l'apprécie énormément. J'avais défendu Romain Duris au cours de la dernière émission. Je renouvelle ma défense de Romain Duris. Je trouve qu'il est plutôt excellent, hein, dans le rôle d'Aramis. J'aime beaucoup Pio Marmaille, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Même si après, tout cela est très subjectif. Je considère même que Eva Green est davantage mieux mise en avant dans ce film-là que le précédent. Donc il y a quand même pas mal de progrès sur ce point. La photographie est meilleure, il y a certaines grandes scènes qui sont plutôt belles, hein, faut reconnaître. Quelques séquences annexes, accessoires sont excellentes et sont quelque part pour moi assez rageantes parce qu'elles révèlent ce qui aurait pu faire un bon film si finalement l'esprit de cette séquence, et on y reviendra je pense, avait été mis au principal dans ce film-là. Maintenant, le gros problème de cette œuvre, et c'est valable pour ce que je disais la première fois, c'est pas forcément le côté buddy movie vote, mais c'est plutôt que le scénar, l'histoire n'est pas quelque chose qui me convainc. C'est une histoire qui part dans tous les sens.
Elle se perd, ouais.
Qui véritablement, enfin, moi, je ne sais pas. J'attends qu'on me l'explique, mais je ne sais pas de quoi parle le film. Je ne sais pas quelle est l'évolution des personnages. Je n'y comprends pas grand-chose, en fait. Il y a énormément de problèmes de montage qui suggèrent que des séquences ont été tournées et ont été coupées complètement à l'arrache avec un bistouri rouillé, pardon. Si bien que il y a des choses, il y a des ellipses qui ne sont même plus des ellipses, ce sont des fossés qui rendent le film, pour moi, très difficilement compréhensible et donc, sur ce plan, défendable. La clé d'un film, je me tue à le dire, la clé d'un livre, la clé d'une BD, la clé d'une œuvre romanesque, c'est son histoire. Le style, comment dire, la mise en image, la mise en scène, c'est presque annexe à l'histoire. Et malheureusement, l'histoire, dans ce film-là, ben, elle n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'a produit Dumas dans son œuvre. Et elle n'est pas du tout à la hauteur de ce que moi, j'attends comme fan de divertissement.
Merci. Othil, je pense que tu vas nous surprendre en disant que tu as adoré.
Ah oh oui, non, je déconne. Non, mais ceci dit, je rejoins un peu Nico et Sarah. En vrai, c'est autant le premier m'avait fait bouillir de rage. Genre, vous ne pouvez pas imaginer à quel point... Et ça continue maintenant, en fait. Il y a des choses qui me reviennent. Ce film a été mon empire romain, quoi. C'est genre, j'y repense régulièrement et à chaque fois, j'ai des bouffées de rage qui remontent. Là, ça va... En fait, je m'en foutais. En fait, j'en avais plus rien à foutre.
C'est ça, il n'y a plus de
mais
surprise,
eux aussi,
quoi.
Hein, en vrai. Et effectivement, je suis d'accord avec Nico. Alors, en tant que spectatrice, je me suis un peu fait chier, mais je m'étais fait chier aussi pour le premier. Je me suis moins fait chier là, ce qui est incroyable, parce que c'était un peu moins coincé du cul, c'était un peu moins des phrases sentencieuses et des da-da-da, allez-y, nanana. Enfin, tu sais, des trucs où ils se donnaient beaucoup d'importance. Là, c'était un poil plus naturel. Il y avait quand même du sentencieux, hein. Enfin, ils peuvent pas s'en empêcher, mais voilà. Et en tant que scénariste, et en tant que prof de scénario, et en tant que script doctor, enfin, c'est des choses qui m'intéressent, il n'y a rien qui drive ce film, effectivement. Il n'y a pas de force motrice, tout le monde part dans tous les sens, chacun a sa souquette, tout le monde va planter des choux, et c'est genre, est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose qui... Enfin, moi, la marque vraiment des films mal structurés, c'est quand j'arrive à un moment donné et que je me dis... est-ce qu'on est au début, est-ce qu'on est à la fin, est-ce qu'on est au milieu, est-ce que ce film va bientôt finir ou est-ce que... Et en fait, on sait pas, à la scène de duel entre D'Artagnan et Milady, je suis là genre, on est au milieu du film ou on est à la fin, je ne sais pas, Je ne peux pas savoir, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui drive. Personne n'accomplit des choses. Personne n'évolue, tu l'as dit, Nico. Donc, c'est terrible. Enfin, moi, je m'en foutais, en fait. Vraiment, il n'y avait rien pour moi. Donc, j'ai un peu subi le film. Mais comme c'est tellement ténu, le lien qu'il a maintenant avec le roman... Bah, je m'en fous, ils ont limite à peu près rien détruit par rapport à l'œuvre d'origine, contrairement... Alors, je vais rejoindre Nico aussi sur le fait que moi, je ne suis pas puriste non plus, en vrai. On l'a dit souvent, en fait, à une adaptation fidèle, c'est-à-dire vraiment servile, point par point, à reprendre la trame du roman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je préfère la lettre, l'esprit, pardon. Pas la lettre, mais l'esprit. Donc, si on peut me donner au moins les personnages, au moins les relations entre eux, et pas exactement tous les trucs qu'il y a dans le bouquin, je suis très contente, vraiment, je suis ravie. Et juste pour conclure, on a discuté avec une journaliste qui l'avait vu et qui est fan des Trois Mousquetaires, qui est fan des bouquins, et qui a dit non, mais c'est pas la pire adaptation, ça va, il y a eu plein d'adaptations qui sont mauvaises. Et je suis pas d'accord, je suis vraiment pas d'accord, parce que cette adaptation a ça de particulier, que dans toutes les interviews, le crew, le directeur, enfin le réal, tout le monde, sauf le producteur, ça je reviendrai dessus après, se prétendait supérieur à Dumas, vraiment. Et ils ont dit on dépoussière.
Ils ont dit qu'ils moderniseraient
Dumas. Ah non, mais on dépoussière, on modernise. Eva Green a dit la Milady de Bourboulon est mieux que celle du livre. Elle l'a dit. Je demande réparation. Je ne suis pas d'accord. Bordel de merde.
Est-ce qu'on parle de Milady maintenant ou est-ce qu'on en parle plus tard?
Je vais vous lancer dans un instant. Donc, je vais vous dire aux gens de la salle qui ont aimé. Désolé par avance.
Oui, désolé, on va pas mâcher nos mots, mais merde, quoi.
On va pas chercher à descendre.
Vous avez droit à la franchise.
Voilà. On va pas descendre en flamme le film gratuitement. On va tenter d'expliquer et de justement, maintenant que vous savez qu'on ne cherche pas à être à dire ils ont respecté le bouquin à la lettre, comme c'est pas le cas, et on est ouvert à ça, il y a pas de problème. Milady. Justement, c'est le film porte son nom. On pouvait supposer qu'elle ait un rôle plus important que dans la première partie. C'est pas vraiment le cas.
J'ai juste envie de faire sa biographie, si tu me le permets.
Je t'en prie.
Alors,
faites des réponses courtes maintenant à partir
de. Non, mais oui, mais juste, j'ai envie de retracer le parcours de Milady, le personnage. Attention. César a fait tomber son micro.
Oui, mais involontairement.
Mic drop. J'ai envie de retracer son parcours à ce personnage. Elle avait 15 ans. Là, je reprends les éléments uniquement de Martin Bourboulon et du premier film. Attention, hein, là, je ne parle absolument pas du bouquin. Elle avait 15 ans. Elle a épousé un gars qui l'a battu et l'a violé. Au bout d'un moment, elle a buté le gars. Ensuite, elle s'est enfuie. Ensuite, elle a rencontré Athos. Ils ont eu une romance gnangnan pendant un an. Hein ? Oui. Ils ont eu une romance gnangnan pendant un an. Au cours duquel, apparemment, ils ont conçu un gosse. Ensuite, selon la longue explication chiante d'Athos, ils sont allés à Paris, son frère a reconnu Milady, finalement, elle avait dit non, finalement, elle a dit oui. Elle lui a avoué que, en fait, elle n'était pas celle qu'elle prétendait, mais a buté le mec pédo qui l'a violé et l'a batté. Athos, suite à ça, a fait d'accord, super. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais te livrer à la justice pour être marqué et pendu. Alors ça, c'était génial aussi parce qu'il y avait ce côté, à quoi ça sert si on condamne une meuf à mort de la marquer au fer rouge ? C'est débile, mais c'est pas grave. C'était pour la reconnaître 1000 ans plus tard. Ensuite, elle échappe à la mort parce qu'elle rencontre Richelieu en tôle. Elle échappe à la pendaison. Elle rencontre Richelieu en tôle qui lui offre un job.
Et quelqu'un s'est fait... Ah bah grâce à Richelieu, oui, j'imagine.
Oui.
Quelqu'un s'est fait assassiner à sa place. Oui.
Richelieu trouve qu'elle a un CV de fou, de s'être fait battre et violer à 15 ans et ensuite dénoncer par son mari à la justice. Richelieu fait, voilà quelqu'un qui est plein de ressources, qui est vraiment genre pile pour faire espionne pour moi. C'est vraiment genre... Tu vois le cerveau, tu vois le mec qui faisait trembler la France au XVIIe siècle quand même. Donc, il la recrute, sachant que, bon, là, je vais faire un petit détour par les bouquins, mais Milady de Winter a une vie dans les bouquins. Elle a des trucs à faire, elle est noble.
Elle est devenue Milady de Winter.
Oui, son job, c'est pas espionne de Richelieu, juste, il se trouve qu'elle va régulièrement en Angleterre, donc Richelieu lui fait, bah, écoute, vas-y, porte des lettres et tout ça. Tu vois, elle bosse, mais c'est pas son job d'être espionne. Bref, très rapidement. Elle finit espionne de Richelieu. Elle tue, toujours dans les films, elle tue une meuf, peut-être pas par elle-même, a priori. C'est peut-être les quatre hommes qu'elle avait avec elle qui butent une random meuf. Elle tue un chien. Elle tue, selon les hommes de Buckingham, trois hommes. Grâce à ses kung-fu skills qu'on n'a jamais vus au passage, parce que je rappelle aussi que Eva Green, dans ses interviews, avait parlé de tigre et dragon. Pardon, hein, mais... elle a dit que Milady est partie en Asie et a appris des techniques de l'Asie. Donc nous, on s'attendait à du kung-fu, on n'a rien eu. Donc tigre et dragon, que dalle. Elle a buté trois mecs, et tous les gens de ce film lui courent après pour la buter for no fucking reason. C'est une dinguerie quand même. Elle a rien fait, elle est nulle à chier. Elle rate tout. Elle est envoyée pour tuer Buckingham. Buckingham lui met une patate. Elle est dead. Elle se fait sauver par Constance. Elle n'arrive même pas à sortir son cul de la prison dans laquelle elle est. C'est une dinguerie. C'est genre, c'est un personnage qui ne vaut rien. Et ce film s'appelle Milady.
Maintenant que t'as retracé la chronologie de Milady.
Holy shit!
Soit, mais dans sa caractérisation telle qu'on l'a vue dans le film, dans les changements qu'il y a eu par rapport à Dumas, est-ce que vous ne voyez pas des choses qui peuvent se révéler intéressantes? Typiquement, bah, le fait qu'elle ait un gamin un peu... Bon, ça, je ne m'attendais pas à ce que ça ait une incidence à la toute fin, mais je me disais, ok, c'est Joseph, 20 ans après, s'ils veulent le faire, admettons. Là, et ça permet une gravité un peu plus forte sur la relation avec Athos. Là, le côté, la captivité de Milady, c'est un moment, un moment important des Trois Mousquetaires vers la fin. Ils le switchent et pour moi, ils le mettent dans un entonnoir et je me dis, bon, pourquoi pas, bref, que ce soit ces exemples-là ou d'autres, est-ce que vous voyez des choses qui, malgré tout...
Juste au passage...
Non, tu vas laisser parler, c'est les autres.
Non, hein, mais Athos a attendu qu'elle ponde un gosse avant de la dénoncer et la faire pendre. C'est un psychopathe.
On suppose que c'est après qu'il y a eu... non ?
De quoi ? Qu'elle a avoué...
Ouais.
Mais il a, du coup, la mère de son enfant... Il a fait.
Oui, ouais, ça rend les choses encore plus graves. Oui,
c'est dingo. Si encore c'était genre, elle a échappé à la potence parce qu'elle était enceinte, ça aurait été logique, tu vois, à la limite. Mais non, c'est genre.
Mais
il
c'est
a
trop tard pour
qu'elle
le...
ponde un gosse. Et il a
pour
fait
le script
super.
Doctoring, c'est trop tard.
Et il a sa tombe dans son jardin, ce fou. C'est un sociopathe.
Mais ça, c'est un peu le cas dans les romans aussi, cela dit.
Il n'a pas sa tombe dans un jardin, dans son jardin.
Bon,
il a dénoncé sa femme, récupéré le corps.
Oui, d'accord, non, tu ne la refais pas. Nico.
Il a foutu la tombe dans son jardin.
Nico, Sarah, si nous... qu'avez-vous...
Je peux parler un peu, parce que j'ai rien à dire pour l'instant. Ils parlent beaucoup trop, tous les deux. Bon, déjà, je suis d'accord sur une chose, c'est que Athos, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est une épouvantable ordure, en fait, dans ce film. Mais je pense qu'on s'attardera davantage sur le personnage par la suite. Mais moi, quand Milady kidnappe son enfant à la fin, je suis à fond avec elle parce que ce type est affreux pendant tout le film. C'est visiblement, c'est pas seulement un mauvais mari, c'est aussi un mauvais ami. Il est désagréable avec tout le monde. Si encore c'était volontaire, si on avait l'impression que les scénaristes avaient pris une décision, on va montrer Athos comme une épouvantable ordure. Bon, ça me dérangerait un petit peu parce que là, le personnage perd d'un coup beaucoup en nuance, mais ce serait une nuance, ce serait un parti pris. Là, j'ai l'impression que le type est une ordure à la limite de la sociopathie, effectivement, mais que les scénaristes ne se rendent pas compte. Que c'est involontaire, en fait, de leur part. Et ça, c'est beaucoup plus gênant. Donc, pour en revenir à Milady, parce que c'est ça dont on parle pour le moment, moi, je dois avouer que Eva Green, que j'avais trouvée extrêmement moyenne dans le premier film, je trouvais qu'elle faisait Eva Green, la femme fatale, ce qui est un petit peu son rôle en fait dans tous ses derniers films. Je l'ai trouvée bien plus intéressante dans ce film-là. Il y a des moments, tous les moments où elle fait un peu la vamp caricaturale, où elle dit à D'Artagnan, laisse le diable rentrer en toi, nous sommes tous les deux des tueurs, etc. Ça, j'ai trouvé ça, en se frottant contre lui, j'ai trouvé ça très gênant. Mais quand si on vire ces scènes-là, j'ai trouvé que globalement, elle avait plus de choses à faire et elle les faisait plutôt bien. La scène avec Constance, par exemple, dans la prison, il y a des choses qui me dérangent beaucoup. Normalement, parce que Constance, là, c'est vraiment l'agneau sacrificiel qui va être là pendant 5 minutes et puis qui va se faire tuer dans une scène extrêmement lente. Donc ça me dérange pour Constance, qui est globalement absente et très ratée. Par contre, oui, Eva Green joue bien. Oui, je l'ai trouvée un petit peu émouvante dans cette scène-là. Donc, quand elle ne fait pas la vamp, je l'ai trouvée bien. au niveau purement du jeu. Et je trouve même que le propos, je pense que le personnage de Mielgi, c'est un personnage qu'on ne peut plus incarner à l'écran tel que l'a écrit Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, il a l'excuse que c'est un mec du 19e siècle, et c'est vrai, la Milady du roman, elle est véritablement satanique, elle est véritablement démoniaque. Elle a peut-être des circonstances atténuantes quelque part, mais globalement, elle est montrée comme intrinsèquement mauvaise. Donc je pense que c'est...
Dans un instant...
Non, s'il te plaît, Maëva.
Ce sera ton tour après.
Si, il y a plein de disques qui montrent qu'elle est mauvaise un peu par nature. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Je suis pas du tout d'accord.
Je coupe ton micro.
Je continue.
Vas-y.
Donc, c'est mon point de vue. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose que dans toutes les adaptations modernes, on fasse un effort pour humaniser un petit peu ce personnage. Après, il faut le bien faire. Il ne faut pas remplacer des clichés par d'autres clichés encore plus gênants. Donc, pour humaniser le personnage de Milady, d'accord, pas de problème. Pour en faire, pour dénoncer à travers elle les violences masculines de l'époque et même de toutes les époques en général, pas de problème. Le problème, c'est que je trouve que c'est fait globalement avec les pieds et qui a ce côté-là, comme disait Maëva, d'une Milady qui est globalement très incompétente. À la fois, on veut en faire une sorte d'icône féministe, mais elle se fait sauver régulièrement par des mecs, en fait. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait chez Chalet, d'ailleurs. Est-ce qu'elle a été faite prisonnière ou est-ce qu'elle était là pour récupérer le nom du traître ? On ne sait pas trop, mais elle est prisonnière et clairement, sans D'Artagnan, elle s'en serait jamais sortie. Donc, elle va être sauvée régulièrement par des hommes. Elle rate tout ce qu'elle entreprend. Elle a à la fois une compétence et un pouvoir de nuisance qui est beaucoup moindre que le roman. Donc, globalement, alors qu'elle est censée être au centre du film, j'ai trouvé que tout son traitement était très décevant. Mais en épargnant Eva Green, que je trouve meilleure que dans le premier film.
Nico.
Alors, Milady, c'est deux choses. C'est l'interprétation et c'est le personnage. L'interprétation, tout d'abord... moi je suis rien hein, pour critiquer le jeu d'acteur, mais mon avis est hyper subjectif. Eva Green, pour moi, c'est une très grande actrice splendide qui illumine certains des films dans lesquels elle a joué, notamment Casino Royale. C'est-à-dire que depuis Casino Royale, je suis toujours en attente d'une immense James Bond girl. Ayant tout le charisme qu'elle déploie dans le film. Dans la saga Mousquetaire, clairement là, son jeu d'actrice, pour le coup, du moins, est davantage mis en avant par certaines séquences, notamment celle de son enfermement à la suite de la tentative d'assassinat manqué de Buckingham. Mais pour autant, c'est pas clairement le rôle qui, marquera sa carrière. Encore une fois, c'est très subjectif de ma part, mais je n'en pense pas moins. Maintenant, le personnage. Je crois que tout a été dit, je parle du personnage du film, tout a été dit, je pense. Je ne sais pas si elle est véritablement à ce point incompétente. On voit dans le premier film quand même qu'elle parvient à embobiner Buckingham, ce que je trouvais plutôt pas mal. C'était d'ailleurs, j'en avais pas parlé au cours de l'émission, mais la séquence où elle séduit Buckingham en dansant en plusieurs langues, c'est une séquence que j'avais plutôt appréciée et j'ai pas malheureusement eu le temps d'en parler. Je trouvais que pour le coup ça mettait véritablement en avant son côté séductrice, cultivée, presque démoniaque, de manière assez habile. Là, dans le dernier film, elle se retrouve à être plutôt Kung Fu Woman, mais sans faire de Kung Fu. D'où un paradoxe assez étonnant et qui est nourri également par d'autres questionnements qui sont liés au fait que l'histoire est malheureusement bâclée et part dans tous les sens. Moi, je me pose la question de savoir, mais qui est Milady dans le film ? C'est-à-dire, dans quel camp elle est ? Je ne comprends absolument pas, en voyant le film, pourquoi elle en bisbille avec les mousquetaires, par exemple. Je ne comprends pas ses instincts de vengeance, je ne comprends pas pourquoi elle demande à Richelieu une espèce de blanc-seing pour éliminer ses ennemis, les mousquetaires. Je ne comprends absolument pas.
Le blanc-seing, pour moi, c'est pour le meurtre de Buckingham.
Ouais, mais à un moment, elle demande à Richelieu, laissez-moi m'occuper de mes ennemis. Qui sont vos ennemis ? Ce sont les mousquetaires. Enfin, si je ne me plante pas, c'est ça. Hein. Mais pourquoi, en fait ? Enfin, qu'elle nourrisse quelque inimitié envers Athos, admettons, mais qu'elle en veuille à ce point aux autres, c'est quelque chose qui m'échappe. Ou alors on en fait une folle furieuse, mais dans ce cas-là, c'est pas ce qui ressort du film. Ou alors, dans ce cas-là, c'est comment le personnage n'est pas véritablement caractérisé. En fait, je comprends pas quel est son rôle dans le film, presque. Vers la fin, je ne sais pas pourquoi D'Artagnan veut sa peau, par exemple.
Après, elle parle de mousquetaire, elle doit désigner Athos et peut-être par extension D'Artagnan. Elle ne doit pas connaître les autres, vu que de toute façon, ils sont un peu absents du film. Donc c'est peut-être juste ça.
Oui, mais D'Artagnan lui a rien fait. Il a rien vraiment fait, à part lui...
Il lui sauve la vie. Hein.
Il a sauvé la vie. Pourquoi est-ce qu'on veut à D'Artagnan? On n'a pas de raison. Dans le livre, bon, il y a quand même un viol de D'Artagnan sur Milady, elle a des sacrées bonnes raisons de lui en vouloir. Là, elle n'en a aucune. C'est vrai que c'est très étrange. Qu'est-ce qu'elle lui reproche? Et je suis d'accord avec Nico, quand D'Artagnan arrive et qu'il apprend la mort de Constance, moi, j'ai cru honnêtement qu'il allait s'en prendre à Buckingham. Je veux dire, qui a tué Constance? C'est les Anglais qui sont des gros bourrins. Pourquoi il s'énerve d'un coup sur Milady
Et elle sait juste que Athos, enfin que D'Artagnan connaît Athos, vu qu'il l'a désigné comme la femme, l'ex-femme d'Athos. Donc c'est peut-être juste, allez, on fait un tir groupé, comme ça c'est réglé.
Mais il y a autre chose aussi, et je finirai là-dessus, là encore ça rejoint toutes les incohérences autour du personnage. Bon, qu'on en fasse une mère, pourquoi pas ? Bonne idée, très bien, etc. À condition que ce soit bien exploité, peut-être dans une suite. Je ne vais pas en vouloir pour le coup au film de ne pas avoir... travailler cet aspect des choses, c'est peut-être quelque chose, encore une fois, qui reviendra plus tard dans la nouvelle saga, je ne sais pas. Mais ce film, en fait, il me fait poser 30 fois la question pourquoi ? Pourquoi, dans ce cas-là, elle ne s'attaque à l'enfant qu'elle a eu avec Athos qu'à la fin du film et pas avant ? Il n'y a rien qui justifie, justement, à part une espèce de recherche du cliffhanger totalement artificiel, qu'elle procède à ce kidnapping à la fin du film. Pourquoi pas il y a 4 ans, pourquoi pas il y a 2 ans, pourquoi pas il y a 1 an. On en avait parlé avec Sarah il y a quelques heures. J'avais essayé de concocter une hypothèse explicative, parce que je suis toujours comme ça. Hein. Quand le film a des problèmes, je suis en mode avocat et en mode script doctor, j'essaie toujours d'imaginer quelque chose qui explique. Et en fait, je me suis retrouvé à réfuter mon hypothèse. C'est-à-dire que j'avais imaginé des choses, mais qui en fait s'effondraient complètement, précisément parce que cette intrigue ne tenait pas. Et là encore, on renvoie au problème majeur qu'on retrouvait déjà dans le premier film, à savoir l'histoire.
D'autant plus que, contrairement à toutes les adaptations des Trois Mousquetaires, Athos ne se cache pas. Dès le premier film, il dit « Bonjour, je suis le comte de la Fère ». Et là, on découvre qu'il a toujours le domaine du comte de la Fère. Donc, honnêtement, Milady savait très bien où était l'enfant, elle savait très bien où était son mari. Donc, c'est vrai que ça rend inexplicable le fait, qu'elle soit poussée par l'instinct maternel ou par la vengeance, ça rend inexplicable le fait qu'elle a attendu aussi longtemps pour récupérer son enfant, qui était quand même entre les mains, je le répète, de ce type absolument affreux.
Oui, quelque part, elle aurait sauvé l'enfant, parce que je ne sais pas si vous avez vu le père. Enfin, franchement, dans ses cheveux, il y a 14 variétés de virus différentes. Non, il faut vraiment... Enfin, pour moi, il aurait été... En fait, c'est un happy end, ce film. C'est une bonne fin. C'est-à-dire qu'elle sauve le gamin, pour moi. Vraiment. Et quand on voit Athos, après, on y reviendra. Je vais peut-être défendre un peu ce côté-là. Mais pour le coup, Athos, il est monstrueux. Il est déjà, pour moi, un peu monstrueux dans le roman. Mais dans le film, il est affreux. Et pour moi, cet enfant ne pouvait pas lui être confié. Donc, alors, si ça se trouve, c'est même pas Milady qui a volé le gamin. Bon, on voit une boucle d'oreille, mais c'est peut-être les services d'aide à l'enfance qui sont intervenus. Je sais pas, vraiment.
Aurélie, je te laisse répondre à Sarah sur le fait que
j'ai envie de défendre le personnage de Milady, mais Athos aussi, oui, il est monstrueux, mais il est humain aussi, en fait. C'est ce qu'on aime aussi chez Dumas. Mais Milady, si on se place 2 secondes de son point de vue, et on l'a fait, nous, en tout cas, quand on a lu le bouquin, quasiment tous chez les Dumariol, c'est une meuf qui vit sa life. C'est une meuf qui demande rien à personne. Elle est juste très belle. Elle a le malheur d'être extrêmement belle. Et en fait, D'Artagnan crise sur elle et arrête pas de lui casser les couilles. Il arrête pas de venir la chercher, elle. Et en fait, elle veut juste genre faire ses trucs. Et à chaque fois, il y a des mousquetaires qui viennent sur son chemin pour la saouler. Et je suis désolée, je pense pas qu'elle soit démoniaque ou horrible ou genre la pire personne ou je sais pas quoi. Elle essaye juste de faire ses trucs. Genre, elle vit sa life. Elle n'est pas drivée par justement une espèce de. Il y a un moment donné, un peu en délire avec Rochefort, ils sont en mode. Recommandez-moi à Satan, recommandez-moi au cardinal. Bon, ça, c'est un peu des vieux copains, je les aime bien. Mais je pense que c'est lol pour eux. C'est pas des gens qui pensent vraiment qu'ils sont sataniques eux-mêmes. Et Milady, à part d'être extrêmement intelligente, extrêmement belle, et de du coup mettre des plans qui, eux, arrivent à complétion, contrairement à celle du film. Moi, à la fin des Trois Mousquetaires, certes, elle a tué Constance, ça je suis d'accord, mais il y avait un côté un peu, elle l'a jeté sous le bus en fait, en mode si ça peut ralentir, bon, désolé meuf, allez bye. Ce qui est limite un peu pareil là, sauf qu'elle a pas fait exprès, ce qui est un peu pathétique encore une fois. Et en fait, à la fin, ils sont 10 à la juger, ils sont 10 contre elle. Et moi, je pense que quand tu lis le bouquin de Dumas, tu sens quand même à quel point la situation est pathétique pour elle, à quel point c'est horrible en fait de se faire juger elle toute seule par ces 10 mecs qui sont face à elle et qui décident de la buter, et au point que justement dans les bouquins suivants ou au moins dans 20 ans après, ils se sentent comme des merdes. Et
quand quand tu finis
les Trois Mousquetaires, tu te dis putain mais quelle bande d'enfoirés. Enfin, t'es un peu dégoûté quand même. Donc moi je pense pas que ni Dumas ni Milady elle-même en tant que personnage, mais je pense pas que Dumas la peigne comme Satan incarné ou une mauvaise personne ou quelqu'un qui veut faire le mal, pas du tout.
Il y a des moments quand même.
Moi je trouve quand même qu'elle a dans le roman une sorte d'aura satanique.
Elle arrête pas d'être trahie. Elle s'est fait pendre par son mari quand elle avait 15 ans. Ensuite, elle se fait violer par D'Artagnan, donc désolé pour le spoil, mais dans le bouquin, elle se fait violer par D'Artagnan. Il se fait passer pour un amant dans le noir, pour quelqu'un d'autre dans le noir, ce qui est quand même un viol.
C'est un viol par surprise.
Voilà. Donc en fait, il ne la prévient pas. Au passage, j'étais, pour le coup, là, ça m'a vraiment, vraiment dégoûté dans le film, parce qu'ils ont inversé ce trope. Milady viole D'Artagnan. Et j'étais là, ça m'a foutu des haut-le-cœur cette scène, ça m'a vraiment foutu mal. Parce qu'en plus, je me demandais pourquoi dans le premier film, il était gêné à ce point quand elle essayait de faire des tentatives de séduction sur lui, en mode, en fait, t'es vieille, lâche-moi, tu vois. Et en fait, là, j'ai compris. En fait, il n'arrête pas de lui dire, arrêtez, je ne veux pas, arrêtez, et elle se jette sur lui. Et il y a vraiment une sale ambiance dans cette scène, et je dis, ah, du coup, votre réponse féministe à D'Artagnan viole Milady, c'est Milady viole D'Artagnan. Mais c'est super.
Et c'est ce que je disais, c'est toutes les scènes où elle est en vamp caricaturale, je les trouve extrêmement gênantes, que ce soit la façon dont Eva Green le joue, de la façon dont François Civil a l'air complètement tétanisé. J'ai trouvé ça très gênant dans le premier film, j'ai trouvé que c'était tout autant dans celui-là.
Donc oui, c'est une femme qui est dure, c'est une femme qui a été trahie plusieurs fois. Moi, je trouve qu'elle ne surréagit pas en fait, quand elle réagit. Je trouve que ces mouvements de colère ou ces plans ou ces intentions de se venger, personnellement, sont justifiés. Enfin, moi, je suis Milady did nothing wrong. Ever.
On va parler un peu du reste du casting. On est nombreux à regretter qu'on n'ait pas vu les Trois Mousquetaires, mais c'est toi qui avais dit dans nos notes, il y a un mousquetaire, plus un mousquetaire, plus un mousquetaire, plus un mousquetaire.
C'est toi, pardon. Non, mais le film, il est bien pour ça, parce que pour le coup, le titre de Dumas, il est restauré. On voit bien Trois Mousquetaires. On voit D'Artagnan, Aramis et Athos. Donc c'est bien, hein, franchement. Il y a Trois Mousquetaires.
Est-ce que vous avez trouvé leur interprétation? Enfin, comment vous l'avez trouvé leur interprétation à eux 3/4 par rapport au premier? Est-ce qu'il y a du développement? Est-ce que c'est bien ou pas?
Moi, je trouve qu'ils sont, au niveau de l'interprétation, ils sont vraiment sur la longueur du premier. C'est-à-dire que François Civil fait les choses correctement. Cassel n'en fout pas une. Et Romain Duris et Pio Marmaille, je pense que des quatre, c'est ceux qui se débrouillent le mieux, mais ils sont tellement absents, en fait. C'est terrible. Là, Aramis, c'est un adjuvant. Et Porthos, c'est l'adjuvant de l'adjuvant. Il a même pas de sous-intrigue, Porthos. Il vient se greffer à la petite sous-intrigue d'Aramis.
Qui ne sert absolument à rien dans le film.
Alors, elle ne sert à rien, mais d'un autre côté, je confesse que c'est le seul moment où j'ai souri au premier degré en voyant le film. Donc, je suis un petit peu...
Je suis d'accord, c'était amusant. En plus, on voit Michalik qui vient et c'est grand acteur.
Je suis mitigée. À la fois, ça se greffe très mal. Et d'un autre côté, c'est une des rares scènes que j'ai trouvées bien écrite et un petit peu sympathique. C'est une des rares scènes où on a l'impression qu'ils sont un peu poteaux. Là, d'un coup, tu te sens, oui, ils ont l'air copains, Aramis et Porthos. Avec les autres, on ne sait pas. Mais eux, ils ont l'air d'avoir un petit truc. Donc, à la fois, ouais, ça se greffe très mal au reste. Mais je ne peux pas vraiment déplorer qu'elle est là, cette scène, parce que sinon, il n'y aurait pas grand-chose auquel se raccrocher en matière de buddy movie et même de pointe d'humour. Quoi.
La scène avec Michalik, je la trouve excellente. Quand je parlais d'accessoires au film qui enrichissent ce film-là, qui révèlent une certaine réussite, je pensais à cette séquence-là.
Pour peut-être expliquer...
C'est une séquence contextualisée.
Ah, d'accord.
C'est la séquence où
la sœur d'Aramis
rentre dans les ordres, elle est enceinte Et Aramis se met en quête du père. Et d'ailleurs, on voit l'esprit déductif d'Aramis. Je trouvais ça plutôt pas mal, moi. Ce genre. Ça révélait qu'il était assez intelligent et assez fourbe, assez sournois. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et ensuite, il va trouver donc, le père qui est joué par Michalik. Et qui est une espèce de.
Pour l'obliger à épouser sa sœur.
Oui, voilà. Pour l'obliger. Et l'autre lui répond, mais vraiment, les dialogues sont plutôt pas mal. Mais comment. Non, mais j'ai pas envie. Deux, attendez, rendez-vous compte, j'ai autre chose à faire. Trois, non, je refuse le duel. Vous êtes une des plus belles, une des plus fines lames du royaume. Et il le fait vraiment très bien. Il y a des ressorts comiques, c'est plutôt bien tourné. La fin est très drôle avec le boulet de canon qui résout presque la question avec finalement.
Il résout tous les problèmes, le boulet de canon.
Ouais. Mais et vraiment, je me dis cette séquence là. Mais si tout le film avait été tourné comme ça, avec des dialogues écrits de cette manière là et surtout articulés, parce que Michalik, c'est un des rares personnages que je comprends dans le film en fait. Il parle très bien. Et bah vraiment, quelque part, je me dis, mais voilà, si vous devez faire une suite, inspirez-vous de cette séquence-là, parce que c'est cette séquence-là quelque part qui est la véritable réussite, qui révèle ce que ça aurait pu être.
Alors, je suis d'accord avec vous deux, c'est-à-dire que c'est sans doute la partie du film que j'ai préférée, alors qu'elle fait 15 minutes à tout casser, hein, en comptant
5 en fait.
Allez, 10. Néanmoins, c'est pas le film qu'on a vu, ça ne représente que 2% du film.
Non, elle se greffe très mal au reste.
Et voilà, et si c'est ça qu'ils ont trouvé pour donner du temps de présence à Aramis et Porthos, ben non, en fait, c'est un échec. C'est les deux mousquetaires et leurs deux potes, en fait.
Mais je dis pas le contraire. C'est une très bonne scène, mais qui signe l'échec du film. Puisque un film ne tient que par un pilier central, hein, comme l'Empire de Poséidon dans Les Chevaliers du Zodiaque. Sinon, tout le reste se casse la gueule. Là, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire centrale. C'est pas les accessoires, quelque part. C'est ça qui m'énervait, en fait, dans ce film-là. C'était de voir, finalement, qu'il y avait du talent d'acteur, alors, de dialoguiste, et même de mise en scène. La scène est plutôt bien tournée.
J'étais assez surpris que Romain Duris soit bien meilleur et pas le psychopathe qu'on a vu dans le premier film. Et Pio Marmaille, bah, toujours dans mon cœur, hein, il fait Pio Marmaille, on n'attendait rien d'autre, c'était parfait, mais bon, j'aurais voulu l'avoir plus souvent.
Oui, par contre, il a des scènes, Pio Marmaille, c'est vraiment le comic relief en fait, du film, et c'est plus ou moins drôle. La scène où il fait pipi, puis il tombe par terre, il est sur le dos, les autres le regardent, puis il se barre.
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinairement drôle.
Non, mais franchement, non. Je redevenais.
Mais je pense que la majorité, enfin, qui vise à une catégorie du.
Non, mais il y a plein de problèmes avec le personnage de Porthos. Enfin, franchement, encore une fois, je suis pas un puriste chargé par l'inquisition dumasienne de veiller à l'application fidèle des textes. Hein. Ça, je laisse ça au Dumariol. Mais c'est. Malgré tout, j'ai été choqué. J'ai vraiment eu mal à mon petit cœur de voir Porthos dans cet état-là, de le voir là, dans un état mais presque végétatif, où il se met à pisser sur un arbre, aidé par Aramis à tomber.
Enfin, il a connu pire avec Depardieu qui pue qui pète dans L'homme au masque de fer. Hein. Je tiens juste à le dire, il jouait Porthos, c'était un naufrage. C'était probablement un des pires Porthos.
Mais moi, il m'a fait penser à Depardieu. En voyant ça, j'ai pensé à la version de Depardieu dans L'homme au masque de fer.
Il y a plein de bouts à droite et à gauche empruntés à. Bon, on avait vu à quel point c'était emprunté à BBC Musketeers, le premier film. Mais oui, la scène de Constance et Milady, c'est très 1948. Enfin, le film de 1948 avec Gene Kelly. Et effectivement, oui, je pense potentiellement, Pio Marmaille, il a lorgné un peu du côté de Depardieu avec la scène du pipi.
Si on étend cette réflexion au reste du casting, ça va être assez rapide, puisque. Gonzague et enfin, Richelieu, ils sont pas très très présents.
Purée, mais Richelieu. Alors juste un petit truc sur Richelieu, mais c'est genre on connaît de Richelieu au moins deux portraits. Il y a son portrait officiel et puis il y a cet incroyable tableau à La Rochelle justement où il est en full régalia, armure, etc. Où il est face aux barricades, etc. Près de la mer. Donc il a la classe. C'est un très beau tableau. Ça en jette clairement. Là, il était en full armure. T'oubliais qu'il était dans la pièce. C'était horrible. Il a rien, le pauvre.
Mais il n'y a rien parce qu'ils ne sont pas présents, en fait. Ils ont chacun trois scènes. Gonzague, lui, le comte.
Il n'est pas intimidant pour deux sous. Il fait des œufs à la coque et puis c'est tout, quoi.
Et je vous parle d'eux parce que ce sont censés, eux, qui sont des acteurs du complot. Alors, ils sont impliqués, ils sont en opposition. Mais le complot, le complot est...
Mais j'ai rien compris au complot, moi.
Ben, enfin, voilà.
Franchement, non mais je suis habitué. Je m'intéresse beaucoup au complotisme. Je m'intéresse toujours aux intrigues alambiquées. Enfin, moi, plus c'est tordu, plus j'adore, en fait. Mais là, j'ai... Pardon, mais quelque part, je comprends que le complot soit indétectable parce que personne n'y comprend rien, même les conjurés.
Dans la vie de D'Artagnan, c'est le complot. Oui,
c'est ça. Mais après, voilà, bon, Richelieu, il a quand même. J'aime bien la scène où il est la séquence où effectivement il bousille son œuf à la vitesse d'un escargot. Mais je trouve qu'elle est plutôt bien tournée. Après, voilà, bon, il aurait pu être davantage être mis en avant, mais. Ça renvoie encore une fois, toujours, je me répète, hein, mais à l'histoire où il y a trop de personnages. Enfin,
et ils en rajoutent des personnages.
Ils rajoutent des intrigues, des personnages.
Il y a la sœur d'Aramis, il y a Joseph. Alors Joseph, le fils d'Athos, n'existe pas. C'est ni Mordaunt ni Raoul. Il y a des personnages qui tiennent lieu de fils d'Athos dans les bouquins. Ils en ont rajouté un troisième qui n'existe pas. Il y a le frère d'Athos, Benjamin de la Ferme, mon personnage préféré personnellement, qui sert à plein de choses apparemment. Attends, j'en oublie.
Bah, le comte qui est interprété par le mec qui jouait Chico do Brasil là, chez Edouard Baird il y a longtemps. Le traître, celui qui se fait.
Chalet, oui. Chalet, c'est un vrai gars. Chalet, c'est un gars historique.
Ouais, sauf qu'il meurt pas du tout comme ça.
Oui, mais oui,
il est dans, est-ce qu'il est dans le bouquin?
C'est pas grave.
Il est pas dans le bouquin.
Non.
Non, il est pas dans le bouquin. Non, mais puis oui, ils ont rajouté Gaston aussi qui est pas dans le bouquin non plus en soi.
Admettons.
Bah, et en plus, la façon dont ils l'ont interprété, c'est carrément un personnage inventé aussi. Oui. Enfin, je suis navré, mais.
Justement, Gaston nouvelle question publique. Qui avait deviné qui était le chef du complot à la fin du premier film? Ah, ouais, d'accord. Quelques-uns quand même.
Mais est-ce qu'ils savent dans le film, les personnages, qui est le chef du complot, les comploteurs? Parce que franchement, entre Chalet et Gaston...
Je crois qu'à un
Gaston,
moment donné, c'est dans la lettre qui disparaît, ouais. Machin, ouais. Nanana, ouais, voilà. Avec le code et bidule, quoi.
Ouais,
mais... enfin, c'est vraiment, il y a un côté un peu Zelda, il y a vraiment un côté... enfin, j'ai jamais joué à Zelda, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Il faut récupérer le parchemin, puis il faut récupérer le code.
Non, ça, c'est Fort Boyard, ça.
Limite plus Indiana Jones, ouais. Oui, en fait, c'est ça, c'est le père Fouras. mais du coup, ouais, c'est ce qui est bizarre, sachant que justement. Constance a la réponse. Genre, elle a juste à écrire sur un papier c'est Gaston et puis bye. Enfin, il devrait le savoir du coup.
Alors moi, j'ai envie de parler un petit peu de Constance parce que c'est un des trucs qui m'a le plus fâché en fait dans la seconde partie du film. La première partie du film, la première demi-heure, trois quarts d'heure, j'étais globalement indulgente, je trouvais ça mieux que le premier film. Et puis il y a plein de choses qui m'ont fâché dans la seconde moitié et j'avoue que Constance en fait vraiment partie. Parce que son rôle qui était déjà très mineur dans le premier film, là, je crois qu'elle a quoi 5-10 minutes à l'écran et elle est juste là pour se faire tuer. Et je trouve ça d'une tristesse totale. C'est-à-dire, elle apparaît, elle a une petite scène, elle reconnaît Milady. Elle a la scène avec Milady, mais c'est clairement Eva Green qui est mise en avant. Et elle est là, là elle fait le faire-valoir de Milady. Elle va faire un petit peu la femme sage, la femme soumise, qui va donc mettre en avant Milady, qui est la rebelle, en fait, la figure féministe du film. Et ensuite, elle est là pour mourir. Elle est là pour être un faire-valoir et pour mourir. Et je ne voulais pas y croire, en fait. Vraiment, quand j'ai regardé le film, je me disais, c'était tellement éloigné du roman que je me disais, bah, s'il faut, elle ne va pas mourir. Parce que d'autant plus que Milady n'a aucune raison de la tuer, donc je ne voyais pas pourquoi elle allait mourir.
Et elle survit dans plein d'adaptations.
Et elle meurt sur un malentendu, c'est très triste. Elle meurt sur un malentendu, c'est une erreur. Sa mort est interminable, c'est très bizarre parce qu'elle est pendue. Et ensuite, D'Artagnan arrive et on s'est dit, elle est morte. Et puis, ah non, elle n'est pas morte.
Mais, oui, on meurt ou on ne meurt pas. Hein.
Oui, c'est enfin, ça. Voilà. C'est ça on ne meurt pas d'une pendaison.
On se casse le cou ou pas.
Soit tu as la nuque brisée, ouais. Soit tu meurs par asphyxiation. Ouais. Là, c'était ni l'un ni l'autre.
Vous l'aurez appris.
Alors que ça faisait 2 secondes qu'elle était pendue. Donc moi, je m'étais dit, ah bah la nuque brisée, c'est dead. Enfin, là, c'est mort.
Peut-être que D'Artagnan, dans une scène coupée au montage, l'a tué.
Il est là, elle a les mains glacées. J'étais là, genre, quand même pas là. Là, tu déconnes. Parce que même si effectivement son cadavre est étouffé, non, elle n'aurait pas les mains glacées. Et effectivement, ils essayent de rejouer la scène du poison du bouquin.
Mais ça marche avec le poison, pas avec la pendaison. Ouais,
ouais. Et elle lui dit de toute façon rien. Enfin, c'est nul à chier aussi, parce qu'elle n'a rien à lui dire. Hein. Je te vois pas. Ok, bon, bye.
Après, bon, pour être honnête, c'est vrai que dans la seconde moitié du bouquin, c'est un fait. Constance, c'est un peu la victime sacrificielle. On va le retrouver juste pour la perdre.
Ouais, tout à
mais là, qui t'a changé des
choses? Et elle a un échange avec Milady. Dans le roman, elle ignore qu'elle est Milady et qu'elle essaie de la sauver malgré
d'ailleurs,
tout. De la
d'ailleurs, comment connaît-elle Milady?
Oui, ça, ça n'a aucun sens.
Non, mais vraiment, enfin.
Ça n'a aucun sens.
Non, mais je sais pas, il y a peut-être
une explication. Elle la voit, elle dit Milady, elles ne se sont jamais rencontrées.
Mais tout ça, c'est pour dire que, quitte à changer des choses,
la reine...
je pensais qu'ils auraient pu amener des changements au niveau de cette storyline de Constance pour qu'elle ne soit pas là juste pour mourir. Et là, cette histoire, en fait, de Constance qui connaît Milady, je pense que ça revient un peu à ce que disait Nico, à savoir qu'on a vraiment l'impression que le scénario a été charcuté et qu'il y a des scènes manquantes. Et ça, c'est très troublant parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit, peut-être, vu que c'est Milady qui l'a fait kidnapper, c'est à ce moment-là qu'elle l'a vu.
Mais on lui balance en son nom, hein, dans ce cas-là.
Non, j'ai oublié un personnage original, il y a Hannibal, juste pour dire que...
On va y venir.
Non, mais ils ont coupé ces scènes pour rajouter des scènes avec des persos qui ne servent à rien.
Ils ont coupé des scènes de qui tu...
Bah, s'il manque des scènes.
Ah oui, d'accord. Non, mais ça, on n'en sait rien.
Des scènes qui devaient a priori être importantes pour le scénar. Ils ont rajouté d'autres scènes qui servent à rien.
J'avais une autre interrogation. On parlait du frère d'Athos. Alors c'est lui qui est libéré à la fin. Ouais. Il est sur la croix ou je sais pas quoi là.
En mode chrétien du Japon.
mais l'autre en fait, il est mort ou pas?
Oui, le libère pas. Lui, c'est pas grave. Ouais.
D'accord.
Ils avaient qu'un seul cheval, tu comprends.
Ils n'ont pas. Non, mais il y a rien qui explique. Mais avec Sarah, on voit le film, on a une barre de rire à ce moment-là. On se dit mais il y a rien qui révèle que le type soit vraiment mort et les gens ils se barrent. Je sais pas, mais aidez-nous, aidez-moi. Vous m'avez oublié, les amis. Attendez.
Et donc, le siège de La Rochelle, le complot, alors, bon, le complot, mais, on ne peut pas l'expliquer. Mais
non,
le
mais ça, c'est un truc, c'est attends, un truc de dingue.
Je finis. Le siège de La Rochelle qui est entre-aperçu dans le roman, ils vont à La Rochelle, il y a une petite rixe à côté, etc. Mais il n'y a pas le siège en lui-même dans le roman, si je me rappelle bien. Donc là, on le voit. J'étais content de me dire, ah ok, ils explorent un petit peu l'univers connu en montrant des choses qu'on a rarement vues. Je ne sais pas si ça a jamais été fait. Pour faire un cheval de Troie, littéralement, qui est désamorcé encore une fois par Hannibal, dont on va reparler dans un instant, parce que c'est clairement l'ange gardien de tout le monde dans le film. Qu'est-ce que vous avez pensé du siège de La Rochelle et des tentatives juste, d'extension du territoire
juste
du
Juste, il faut que je parle d'une zinzinerie. C'est le commando GIGN, et je dis le commando GIGN parce que c'est les mots de Martin Bourboulon. Il a dit, ils y vont en mode de Special Ops la nuit pour prendre le fort de La Rochelle, constitué d'hommes de moyenne d'âge 50 à 60 ans, à peu près. Alors moi j'étais là, genre les meilleurs des meilleurs, hein. Ils ont vraiment envoyé les Expendables à La Rochelle, c'est bien. Dont Athos Cassel, 70 ans, qui virevolte tel un ninja. C'était un truc de fou, tu le voyais tomber sur des gens depuis des parapets, et t'es là, genre, mais t'es vieux! Donc qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, je suis, en fait, tout le long, j'étais là, genre, ils ont vraiment envoyé Tréville, 60 ans, Cassel, 60 ans, Chalet, qui doit pas être tellement... Et puis Aramis aussi, il est vieux. Enfin, Duris, il a 50 balais. Et je suis là, genre, waouh, ils ont vraiment envoyé les meilleurs des meilleurs.
Oui, mais par la magie du cinéma, ils ont tous entre 30 et 40 ans dans le film.
Grâce à leur doublure, ouais.
Non, mais le siège de La Rochelle, il est, on le voit bien dans le livre. Hein, c'est un des points forts du roman, puisqu'il permet d'ailleurs aux mousquetaires de révéler à quel point ce sont des combattants exceptionnels. Enfin, au-delà des duels, on voit aussi à quel point ce sont d'excellents soldats. Ils sont capables de tenir je ne sais plus quelle redoute.
Ils font de la stratégie, en plus.
Ils font de la stratégie. Et puis, c'est un épisode... très important aussi parce que ça éloigne les mousquetaires de Paris, parce que D'Artagnan là est menacé d'être empoisonné par Milady, et en plus de cela leur fait de gloire, à savoir tenir ce fameux bastion, va permettre à Athos de sauver D'Artagnan, de le protéger de Richelieu. Donc le siège de La Rochelle est vraiment un des points de passage obligatoires du roman. Oui, on le retrouve dans plusieurs films.
C'est en parallèle de cette défense de position dans le roman, c'est un truc à côté. On se voit là, on pourrait être tranquille, on va discuter. Puis là, ils se sont attaqués de mémoire.
C'est un fait. Ils sont particulièrement peu concernés par le siège de La Rochelle. Voilà. Ils sont là parce que c'est des soldats et qu'ils doivent y aller.
Oui.
Honnêtement, il y a même des réflexions du genre les protestants, qu'est-ce qu'on leur reproche à part.
D'être protestants.
En français, les protestants, c'est pas ce que j'ai dit
À part le fait d'être protestants, qu'est-ce qu'on leur reproche?
Non, à part le fait de lire la Bible en français. On voit que globalement dans le bouquin ils sont très peu concernés.
Et t'as Athos qui dit justement mais ils sont cons, ils ont qu'à se convertir en fait. C'est quoi leur problème?
Ils sont pas concernés.
Ils sont pas là pour prendre la ville ou quoi. Non, ils sont là parce que c'est leur boulot. Mais c'est l'épisode a son importance dans l'intrigue, mais pour le reste. Ça n'a pas, voilà, il joue pas un rôle historique majeur. Après, dans le film, ça devient effectivement un commando GIGN. Alors, c'est pas très crédible, hein, tout ça.
Ah, mais... Il y a un truc qui m'a fait énormément tiquer. Moi, c'est les républicains protestants.
Ah oui.
Ça, dans le texte d'introduction, dès l'entrée, ça m'a fait énormément tiquer.
Et Aramis dit carrément, parce qu'ils avaient dit extrémistes protestants dans le premier film, là, il dit carrément terroriste.
Dans le film ?
Ah oui, j'ai noté le terroriste. J'étais là, genre, purée. Enfin bon, voilà. Républicain protestant, terroriste protestant, extrémiste protestant, c'est le carnaval, quoi.
Buckingham, il va avoir le MI6.
Mais juste aussi, ce qui est bien dans le bouquin, en fait, c'est justement leur nonchalance générale. Il y a une scène qui est extrêmement drôle, c'est qu'ils prennent le petit-déj en mode chill, limite sous les bombes, en fait, sous les trucs qui explosent. Et c'est une des scènes les plus iconiques, en fait, du bouquin, en tout cas pour ce passage à La Rochelle. Parce que donc non seulement effectivement ils font preuve de stratégie, donc le fameux Bastion Saint-Gervais, c'est le moment où ils utilisent des cadavres en fait pour faire croire qu'ils sont plus nombreux, donc pour tenir ce bastion. Donc ça c'est un acte héroïque, ils font ça, mais en plus avec des cadavres, donc c'est un peu limite. Et après oui, il y a ce petit déjeuner peinardos et où en fait justement je crois que c'est Richelieu qui les croise à ce moment-là et qui dit, qui se dit ah mais j'aimerais bien qu'ils viennent bosser pour moi ces gars-là parce que vraiment ils me tiennent tête. Athos l'envoie chier de ouf en plus Richelieu. Pour montrer à quel point le gars il a pas peur de la mort et en fait ouais c'est cool comme scène, c'est genre si tu veux montrer les mousquetaires dans un de leurs très rares actes un peu viril un peu cool, bah tu peux les montrer comme ça quoi.
Mais voilà le siège de La Rochelle, bon La Rochelle c'est spoiler historique, La Rochelle va tomber hein, aux mains des armées royales. C'est ce qui d'ailleurs va définitivement lancer la carrière de Richelieu, puisque Richelieu jusque là devait prouver ses compétences à Louis XIII. C'est dit dans le film, d'ailleurs. C'est très bien dit. C'est-à-dire que sans le roi, Richelieu n'est rien. C'est tout à fait exact. Là, j'étais ravi de cette phrase parce qu'elle est totalement vraie. Et avec le siège de La Rochelle, Richelieu va prendre une ampleur politique démesurée. Il va devenir, en fait, ce fameux cardinal rouge, cet homme au plein pouvoir qu'on voit dans Dumas. Dumas, je l'avais dit à plusieurs reprises hein, par le passé, Dumas triche un peu avec la chronologie, mais le siège de La Rochelle va contribuer à comment dire, l'unité du pays qui est un des axiomes de la politique de Richelieu. Mais il va aussi démontrer à la France et à l'Europe que Richelieu est un homme sur lequel et avec lequel il faut absolument compter. Donc La Rochelle va tomber, mais c'est pas dit, voilà, ce que devient La Rochelle dans le film, quelque part, bon, ils en parlent pas, on sait pas très bien.
Oh bah, on suppose qu'après leur coup d'infiltration, c'est gagné, quoi.
Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils les ont affamés à La Rochelle, c'était un siège.
Un siège, ouais.
C'était pas. Mais il y a eu des massacres et tout ça.
Alors,
mais c'était pas une promenade non plus.
Non, ça n'a pas été une promenade de santé. C'est un siège extrêmement dur. Quand Louis XIII se promène après dans les rues de La Rochelle, il est extrêmement touché par ce qu'il voit. Hein. Il voit vraiment des gens qui meurent de faim. Il y a de la famine là-bas. C'est extrêmement lourd comme bataille. C'est pas vraiment un épisode glorieux de l'histoire militaire. S'il y a des épisodes glorieux d'histoire militaire qui puissent exister, simplement. Ce que je voulais dire, c'est que dans le roman de Dumas, le siège de La Rochelle, c'est un arrière-plan important du roman. Mais Dumas ne va pas plus loin. Je ne crois pas me souvenir que dans le roman, ce soit véritablement un enjeu militaire et politique. En tout cas, je ne crois pas me souvenir dans le roman qu'on apprenne la chute de La Rochelle. Dans le film, c'est un peu pareil. On parle de La Rochelle, etc., mais on ne parle pas de la chute de La Rochelle. Mais là, dans le film, ça devient un défaut. Pourquoi ? Parce que dans le film, on nous parle des républicains, des extrémistes, des terroristes protestants. On ne nous parle pratiquement que de ça. On nous montre qu'ils sont manipulés par un complot incompréhensible. Et pour autant, ben, il n'y a pas véritablement de fin. Que deviennent les protestants dans le film ? Je n'en ai aucune idée.
On te dit qu'ils veulent, les deux veulent une guerre, les catholiques comme les protestants, et au final, c'est genre, ça se résume à Hannibal, le personnage original qui chope des canons, puis fin, quoi.
Et ça fait partie, je trouve, des ellipses qu'il y a dans le film qui sont... on a l'impression vraiment qu'il y a des scènes manquantes. Moi, je pense aussi au procès de Tréville à la fin. Et c'est vrai que...
D'où ça sort ?
On ne sait pas trop d'où ça sort. C'est-à-dire, à un moment, on reproche à Tréville, on a l'impression qu'on lui reproche que trois de ses mousquetaires ont aidé... un prisonnier et pas deux, hein, parce que l'autre on l'a laissé sur sa croix à se sauver. Et donc à la fin on arrive au procès de Tréville. Et moi je me demandais, c'est pour ça qu'on lui fait un procès ? Et pas là. Et d'un coup on commence à lui dire oui c'est vous le traître, vous avez donné, etc. Et ça on n'avait jamais parlé avant. Et j'ai vraiment l'impression, en voyant ce film, qu'il y a des scènes manquantes.
Mais est-ce qu'il a arrêté ? Scènes ont disparu, Est-ce qu'il a arrêté dans le film très vite ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui révèle qu'il a arrêté, qu'il est mis en danger ? Enfin, il y a 25 scénars d'épisodes dans ce film-là, mais
j'ai interprété ça de manière où il était présent à l'assaut. Gonzague ne peut pas, évidemment, se débarrasser du comte de Chalais. Et donc, pour réorienter la menace, il dit il était présent, ça s'est mal passé, c'est très vil. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était un gros raccourci, quoi. Quelqu'un évoquait Hannibal, sans que ce soit un éléphant dans la pièce. Bon, première chose, effort de diversité, très bien, mais un peu, oui, mais un peu tardif. Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors déjà, le personnage est historique, il a existé, mais une génération plus tard, c'est ça ? C'était sous Louis XIV,
Je pense.
Et vous pouvez m'en dire deux mots, non ?
Juste à propos de l'historicité aussi, je me suis rendu compte que grâce à une imitation de Louis Garrel, qu'il pense que Anne d'Autriche vient d'Autriche en fait. Et parce qu'il dit, comme quelqu'un me le dit, fou, c'est pressant, mais fou n'êtes pas pressant, ou je sais pas quoi. Et il prend un vieil accent allemand. En fait, et je crois qu'il croit que Anne d'Autriche vient d'Autriche aussi.
C'est la même erreur qu'il commet.
C'est genre, elle est enfante d'Espagne, oui. Elle est née à Valladolid. Donc, c'est une connerie, je sais pas pourquoi.
C'est
et en plus,
erreur,
c'est Vicky Krieps, je pense que pareil, c'est le côté. Ils ont choisi une actrice pour faire allemande, quoi.
C'est une erreur qui a été commise par le film.
Oui, par le film de 1993.
C'est-à-dire qu'Anne d'Autriche, donc elle vient d'Autriche, bah non, en fait.
Oui, en plus, c'est des Américains, à la limite, on s'en fout. Ils entendent Anne d'Autriche, elle vient d'Autriche, bon, pourquoi pas. Mais là, t'as l'impression qu'ils ont fait quelques recherches historiques quand même, c'est cool. Mais le coup de Anne d'Autriche est autrichienne, c'est très bizarre. Enfin bon, c'est pas grave.
Hannibal, quelqu'un, un mot ?
Alors, effectivement, pour le côté d'amener un petit peu de diversité, mais qu'est-ce que c'est mal fait ? C'est très gênant parce qu'il est là, mais il a 5 répliques dans le film. Par contre, il a beaucoup de gros plans sur lui pour bien montrer qu'il est là, mais il a 5 minutes d'apparition, il dit 3 répliques. Et... à la fin, dans le procès, on le voit assis à côté de Porthos avec qui il n'a pas échangé une phrase de tout le film.
Ils sont trop potes.
Alors qu'ils n'ont jamais eu une seule phrase. Donc il est là pour être là. Et en plus, on montre bien qu'il est là. Il y a des gros plans sur lui. En fait, j'ai trouvé ça assez gênant.
Je pense que son rapprochement avec Porthos, c'est genre un peu un fail, justement. Parce que dans la série BBC, c'est Porthos, en fait, qui est noir, ou au moins métisse. Pour rendre hommage au général Dumas et tout ça, ils avaient qu'à faire un Porthos noir, en fait. On s'en fout, c'était logique, en soi. Pourquoi ils ont sorti ce gars de nulle part ? Encore pour le plaisir d'inventer un perso sorti de nulle part, quoi.
La raison qu'on connaît au niveau de la prod, c'est qu'il y aura un spin-off sur Disney+, je crois, donc sous forme de série, qui s'appelle The Black Must Cutter. Donc déjà, pourquoi Alors, c'est peut-être parce que c'est des communiqués de presse anglo-saxons, mais pourquoi le titre en anglais, je ne sais pas. Et donc, il y aurait sans doute donc, une histoire sur lui, et c'est pour ça qu'il a été un peu artificiellement mis en avant. Et encore une fois, moi, j'aurais adoré voir ce personnage plus présent, mais dès le premier film, pourquoi pas, et pas au dernier
avec
moment.
Une personnalité
ouais, là
je... personne n'en a, c'est pas grave.
Mais on peut pas juger là. On a vu 5 gros plans et 3 répliques. Donc
justement, il est là pour être là. On voit qu'il est là, mais il fait absolument rien. Et moi, je trouve que c'est
il fait maladresse, des trucs, terrible. Fait des trucs,
moi, ma théorie, c'est qu'en fait, c'est Albert le 5e mousquetaire qui vient
avec son tromblon chargé de spaghettis, voilà,
qui vient sauver la mise à plusieurs reprises. On sait pas d'où il sort. Il est catapulté. On l'a pas entendu venir. Non, regardez, j'ai mon passe immunité, j'ai mon totem, tout va bien. Allez, on les laisse passer. Bon, c'est.
Mais franchement, la rencontre avec D'Artagnan est super drôle parce que la réaction de D'Artagnan quand il le voit, c'est vraiment mais t'es qui toi ? Et
oui,
en tant que spectateur, on pense la même chose en fait.
On avait un petit peu discuté sur WhatsApp parce que Nico et Sarah ont vu le film hier, avant César et moi. Ils nous ont parlé du coup de cette insertion étrange de ce personnage qui sort de nulle part.
Bah pour moi, c'était en numérique.
Et j'ai fait une petite blague en mode D'Artagnan lui demande où sont les chiottes et le gars lui donne la direction. Et ils m'ont dit, tu vas voir, c'est pas si loin que ça. Et effectivement, c'est D'Artagnan veut se rendre. Ah oui, il veut choper Chalet. Et Hannibal se met en travers et fait non, va pas par là, va plutôt par là. Et c'est vraiment genre le gars qui donne, qui indique où sont les chiottes limite quoi.
C'est le copain
fou.
Noir qui donne
c'est
les bonnes directions. Que reste-t-il de nos amours dumassiens, voilà. Est-ce que vous voyez des choses qui pourraient dire au moins le roman peut. Enfin, moi j'ai cité deux exemples, la captivité de Milady et la disparition de Constance. Ces deux éléments qui survolent le récit. On pouvait
targuer la première partie du film, de structurer par rapport à ce qu'on a vu là, parce qu'il y avait l'intrigue des ferrets, on en avait parlé lors de la précédente conférence qu'on a donnée, où on a admis que ce truc-là est réutilisé parce que bah, justement ça structure, et en plus ça permet aux mousquetaires d'en faire des vrais héros, etc. Là, c'était le bordel. Mais bah, je vous repose la question, est-ce que vous voyez des choses qui vous permettent de dire, bon, bah, là, il y a quand même un souffle dumasien?
Non, mais t'as raison, c'est dingue. En fait, tu leur enlèves les ferrets, il leur reste plus rien. C'est fou. Ils n'ont plus de direction, ils ne savent plus quoi faire de ces persos, et en même temps, ils ne les ont pas du tout introduits dans le premier film. Les persos, on ne sait pas qui c'est, ils n'ont pas de personnalité non plus. Et du coup, je pense que ça s'en ressent dans ce deuxième film. Alors que je l'avais dit quand on avait fait la séance au Club de l'Étoile, c'est que si tu te focalises uniquement sur les choses qui se passent dans Les Trois Mousquetaires, et pas sur les personnages, et pas ce qui les drive eux, et pas ce qu'ils veulent dans la vie, et pas leur passion et leur background et leur machin, en fait, évidemment que tu vas t'arrêter très vite dans le bouquin, parce que si tu t'intéresses avec que ce qui se passe, au-delà des ferrets, c'est pas la peine, lâche l'affaire. Par contre, si tu sais un peu qui sont ces persos et ce qui les pousse à agir, là, tu resteras jusqu'au bout. Et tu liras 20 ans après aussi, parce que tu les vois évoluer derrière. Et ils sont passionnants, c'est des super persos. Putain, mais D'Artagnan, c'est fou, parce qu'on le voit, mais il disparaît complètement. J'y disparaît complètement, c'est juste que genre... Je sais pas qui c'est, en fait, je sais pas ce qu'il veut. On revient à ce truc de « il n'y a rien qui drive le film », même pas D'Artagnan. Il y a un petit truc avec le brevet de capitaine que Tréville le propose à Athos, sachant que dans le bouquin, justement, D'Artagnan se voit proposer un brevet de lieutenant à la fin, et il veut le donner à Athos, et Athos lui dit non, pour le compte de la... Enfin, pour moi, pour Athos, c'est trop, et pour le compte de l'affaire, c'est trop peu. Et là, il dit un truc très étrange. Pour Athos, c'est trop. Il dit être
pour la même chose pour les deux personnages.
Non, et pour le compte de l'affaire, c'est trop tard. Je comprends pas.
Parce qu'il est vieux.
Ah oui, non, mais il est vieux, on est d'accord. Oui, ça, on l'aura remarqué. Mais ça veut dire quoi par rapport au personnage en dehors de oui, on constate que c'est une épave. Je sais pas.
De toute façon, c'est tout le problème du personnage d'Athos dans ces deux versions. Comme je le disais, c'est que c'est un personnage qui non seulement est extrêmement antipathique, mais c'est pas seulement parce que c'est un mauvais mari, c'est qu'il a même, il n'a quasiment qu'une relation amicale avec les autres, mais même avec Porthos et Aramis, n'en parlons pas, parce que Porthos et Aramis, ils sont dans leur coin, mais il a de relations avec personne, ce type. Les rares fois où il parle avec D'Artagnan dans le film, c'est pour le rembarrer sèchement, on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas des amis, on sait pas qui est ce type. Il y a même pas cette relation amicale qu'il pourrait avoir avec D'Artagnan.
Je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que en parlant, ça me frappe comme une évidence. C'est-à-dire que le film, il part dans tous les sens, il est décousu. Mais en fait, je m'aperçois qu'il est décousu parce que ça ne parle déjà pas de leur amitié. En fait, c'est pas les trois ou quatre mousquetaires. C'est je sais pas ce que c'est. Ça aboutit à quelque chose qui vraiment est totalement désuni, décousu, tout ce que vous voulez, mais je ne me souviens pas de ce que fait D'Artagnan dans le film. Je l'ai vu hier. Hein. Je ne peux pas vous dire véritablement ce que fait D'Artagnan, sinon au début, sauver Milady. Mais pour la suite du film, je ne sais pas. Athos, peut-être pour défendre Vincent Cassel, je me demande s'il n'essaie pas de jouer une espèce de cadavre vivant en permanence, et un cadavre, par définition, ce n'est pas sympathique. Donc voilà, c'est une hypothèse que je soulève, mais quelque part, je m'en tape un peu, enfin, franchement, puisque ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse.
Excuse-moi, la scène la plus triste, quand même, c'était quand on t'apprend qu'il a un fils, et que son fils, qui, au demeurant, joue pas mal, mieux que lui, va faire « Ouais, bon, allez, hein, tu vas devenir comte, hein, et puis si je meurs, bon, je meurs. Hein, » Bon, allez, je vais te faire tourner autour de moi. Allez, hop, voilà. Maintenant, on va rentrer prendre le goûter.
En plus,
voilà.
En plus, le gamin, c'est très bizarre parce que le gamin, on dirait un cadavre dans ses bras. Il est juste genre jeté en arrière.
J'ai pas envie.
Il
bouge pas.
J'avais peur pour l'enfant, moi. Vraiment. Non, mais moi, il faut le retirer la garde.
Même quand il lui met ses mains sur ses épaules, le gamin part en arrière. Il appuie clairement trop fort. Enfin, c'est fou.
Mais j'ai cru qu'il allait le jeter dans un étang. En fait. Franchement, c'était en mode mais meurtrier de Netflix, quoi.
Non, mais je trouve ça triste parce qu'en plus, moi. Athos, papa, c'est un des trucs auxquels je suis très sensible.
Oui,
c'est
une de ses rédemptions.
C'est canon, dans 20 ans après, Athos est un très bon père. Il a la fibre paternelle extrêmement développée. Donc, moi, j'aime bien le principe d'Athos, papa.
Mmh. Et on lui fait croire que c'est son gosse, alors que c'est pas son gosse.
Et en l'occurrence, il y avait matière à peut-être raccorder les wagons avec une suite. Bon, bah, ils vont la faire, mais sous une forme qui reste à déterminer. Mais je me disais, ok, bon, bah, c'est Raoul. Ah non, ils appellent Joseph, ok. Bon,
après, Raoul, c'est moche comme nom. Hein.
Oui, mais peu importe. En l'occurrence, tu l'as.
Oui, mais ils ont appelé Athos Armand aussi, c'est pas super non plus. Armand.
Ils en ont fait un protestant, alors que...
Ouais, c'est
pour ça. Anyway, on arrive vers la fin.
Ils disent Athos de l'affaire ?
Non, non, dans le premier film.
Oui, mais là, ils disent Athos de l'affaire, à un moment.
Oui, mais Armand aussi.
Il s'appelle aussi Armand dans le premier, c'est vrai. On va se diriger vers la fin. Je veux juste savoir s'il y aura des questions dans le public. Vous pouvez réfléchir. Je vais ouvrir vers la suite. Alors, d'abord, le cliffhanger. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ?
Je suis à fond pour Milady. Hein. Elle a bien fait. Le seul truc que je lui reproche, c'est de ne pas avoir kidnappé son enfant il y a des années.
Elle aurait dû partir avec la servante aussi.
Cette histoire de boucle d'oreille est complètement zinzin aussi, en fait.
Ça m'a,
c'est genre,
ça
tu vois aller. En plus, parce qu'en plus, elle est edgy comme une meuf de chez Claire's. Elle a des boucles d'oreilles en forme de dague. C'est très visible. C'est pas du tout les espèces de perles, de grosses perles, machin. Et elle est reconnue. Alors, déjà, donc il y a la scène de viol de D'Artagnan où D'Artagnan voit sa fleur de lys. Il fait direct le lien. Vous êtes la femme d'Athos. Ce qui m'a vraiment étonné parce que c'est pas comme si dans son histoire Athos lui avait parlé de l'emplacement de la marque, du type de marque aussi. Et c'est quand même une marque supposément de criminel d'une manière générale.
Ouais, un raccourci quoi.
Ouais, mais quand même c'est fou. Enfin, alors que pour le coup dans le bouquin c'est juste qu'elle essaye de le buter. Il voit la fleur de lys. Mais elle essaye de le buter parce qu'elle a un secret qui a été révélé, mais il n'est pas immédiatement en mode « Ah oui, c'est ta femme, en fait !»
Non, il ne fait pas le lien, effectivement. En fait, elle lui donne une bague, il ramène la bague à Athos.
Et ça, d'accord.
Là, et c'est Athos qui voit la bague et qui entend parler de la fleur de lys et qui fait le rapprochement. Donc là, il y a effectivement, c'est beaucoup
alors plus... Alors que oui, là, c'était vraiment bizarre. Et cette boucle d'oreille qu'elle laisse, là...
Elle pourrait très bien... Elle menace D'Artagnan d'une dague, elle pourrait très bien ramasser ses affaires. En plus, il a l'air de faire moche dehors et elle s'en va en laissant tout en plan. Et notamment, comme par hasard, une boucle d'oreille. Quoi.
Mais c'est même pas une boucle d'oreille qu'elle porte en plus, c'est ça qui est taré. Donc je comprends pas. Elle en a une deuxième qu'elle l'a laissée en mode.
En souvenir du bon vieux temps, je sais pas. Et
puis, Mike drop.
Et puis
mais là, c'est une belle fin, la gentille gagne à la fin. Mais c'est ça que j'ai compris. Oui, mais je commence vraiment
c'est
à me demander.
En fait, c'est une bonne fin.
Ouais,
c'est une fin c'est... heureuse.
Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont l'interpréter comme ça. Quoi, parce qu'il y a eu annonce de la volonté de faire d'autres films. Donc, bon, sans doute des adaptations de 20 ans après. Et on verra ce qu'il en est. Mais...
Ou du masque de fer, hein, peut-être aussi.
Oui, non, c'est sûr et certain que c'est le masque de fer. Parce qu'ils font les trucs à la Star Trek, c'est genre, ils vont pas faire les trucs inconnus de Star Trek, ils vont faire les Borg, ils vont faire les Klingons, ils vont faire les Vulcains.
Ouais, mais et Milady a un fils, ce qu'elle a dans 20 ans après, le côté vengeance, je vais t'instrumentaliser contre ton père, il y a peut-être un truc justement... alors, du coup, il mixe avec Murder Hounds, etc. Mais bon, bah, on verra.
Donc il rajouterait 10 ans et là, Cassel aurait 80 ans ?
Oui.
Alors, juste pour parler de 20 ans après, justement, je voulais parler de Dimitri Rassam, le producteur du film. En fait, on a vu une interview de lui sur le Discord des Dumariol, où le mec, en fait, je pensais que le film était fait globalement, parce qu'on lit les interviews d'Eva Green, elle a dit « Oui, j'ai survolé le roman. » Je dis « Ah, j'en t'ai payé combien ? T'es payé combien pour survoler un roman ?» Genre, c'est une dinguerie. Tu devrais lire un putain de bouquin, ne serait-ce qu'en audiobook. Donc ça m'a rendu folle. Donc elle dit qu'elle a survolé le bouquin, ce que je veux bien croire. Pareil pour les autres, à la limite, qu'ils aient pas lu, c'est pas très grave.
En plus, l'audiobook est très bien.
Oui. Mais Dimitri Rassam, du coup, a donné une interview où il dit qu'il est passionné par le XVIIe siècle, où il dit que son bouquin préféré, c'est 20 ans après, ou en tout cas que c'est le meilleur de la trilogie. Il parle du Sphinx Rouge. Il dit qu'il devait rendre un mémoire un jour sur Richelieu et Mazarin, et deux hommes d'État, une politique, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu t'y connais. En fait, le gars s'y connaît. Parce que 20 ans après, c'est aussi mon bouquin préféré de la trilogie. Et je me dis, il a tout lu. Et il a décidé de faire ça. Il avait le pouvoir, il avait les pépettes, il a vraiment tout mis en œuvre et il a décidé de faire ça. Et pour moi, c'est un crachat à la gueule, en fait. Pour moi, il y a un côté où c'est genre, avec ton éducation, t'as vraiment bien kiffé tout ce qu'il y avait à kiffer, t'as dégusté le caviar de ce que Dumas t'a donné et t'as décidé de faire ça. Non, moi, enfin, vraiment, je...
Je te sens chaque fois.
Ben, s'il y a des coupables à désigner, vraiment, lui, il se prend une patate en premier. Hein.
Et la suite, donc cet éventuel troisième épisode, où même on va étendre le débat aux autres productions qui vont arriver, parce qu'il y aura le Comte de Monte Cristo, alors pas par le même réalisateur, mais par une partie des mêmes scénaristes, je crois, qui arrive avec Pierre Ninet dans le rôle titre. Est-ce que vous les accueillez favorablement, au moins de la curiosité ?
Alors moi j'adore le Comte de Monte Cristo, je n'ai rien contre Pierre Ninet, mais si c'est les mêmes scénaristes, Je veux dire, c'était le scénario qui pêche surtout, donc je vais pas regarder ça.
Nico ?
Le Comte de Monte Cristo, c'est mon roman préféré, donc effectivement, si c'est maltraité et transformé en quelque chose d'indigeste, oui, là, je pèterai un câble. Enfin, là, je deviens un terroriste protestant, effectivement, mais
Tu vas protester, tu vas terroriser.
Ouais, voilà, je crée une république à La Rochelle et on ne saura pas ce que c'est devenu. Et je montrerai des complots avec des royalistes, on ne comprendra rien, ça va être fun. Enfin, ouais, voilà. Moi, les suites, les spin-offs, les films parallèles, moi, je dis pourquoi pas, je suis vraiment foutu de les voir parce que ça adapte quand même Dumas. Et j'aime beaucoup voir des adaptations de Dumas et je me dis, je sais pas, je suis un incurable optimiste là-dessus, je me dis qu'on peut trouver toujours quelque chose qui renouvelle la vision qu'on peut avoir de cet auteur et de son œuvre. Donc, pourquoi pas? Maintenant, voilà, je me fais pas trop d'illusions, c'est pas ce qui va m'obséder pour les années suivantes.
Après, si c'est fait par d'autres personnes, pourquoi pas, hein, c'est...
Bon, je... Non.
Ça a été la réponse la plus concise de Maëva toute la soirée.
Ouais, hein. Mais enfin, je sais pas. Moi, après avoir vécu ça, et en plus justement, le Comte de Monte Cristo, c'est un roman qui est quand même vachement plus respecté. Que ça a des adaptations beaucoup plus prestige que Les Trois Mousquetaires. C'est considéré comme le meilleur roman de Dumas. C'est considéré comme un roman à part entière. Tu vois, vraiment extrêmement respecté. Donc peut-être qu'ils vont le prendre avec le respect qui lui est dû. Mais justement, je pense que tu t'es foiré sur Les Trois Mousquetaires, t'as pas le droit, en fait.
Je dis des bêtises. Je crois que c'est pas les mêmes scénaristes, mais la même production qui est derrière.
Non, je crois que t'as raison, c'est le même scénariste.
Parce que j'avais lu que c'était le scénariste du prénom qui était dessus. Si je me rappelle bien, c'est le scénariste du prénom, la comédie avec Patrick Bruel et tout ça qui est dessus. Bon, bref, on ira voir après.
Cela dit, si vous voulez voir une adaptation du Comte de Monte Cristo qui est vraiment réussie, moi je vous invite à voir l'adaptation japonaise en manga animé.
Oui, Gankutsu.
Gankutsu, qui est vraiment magnifique. Enfin, moi, voilà, je m'attendais pas du tout à.
Trigger warning, c'est de la SF.
Oui.
Inspiré visuellement de Gustav Klimt.
Je crois. Non, Klimt, ouais.
Klimt.
Mais enfin, en tout cas, des arts déco début 20e siècle, et c'est brillant à tous les niveaux. Vous pouvez même le voir en VF. Moi, j'aime bien la VF.
Oui, c'est un chef-d'œuvre.
Et vraiment, on est en présence d'une adaptation qui est brillantissime, qui a totalement compris en fait l'œuvre de Dumas et qui prétend pas la moderniser, mais la raconter à sa manière.
L'enrichir,
bien sûr, mais vraiment, c'est un rare exemple, je crois que je l'avais dit pendant le podcast que tu avais fait, c'est un rare exemple d'une adaptation de Dumas.
Réfléchie en plus.
Qui est presque meilleure que l'original. Vraiment. Il y a des développements de personnages peut-être plus cohérents que dans le roman. Voilà, mais j'en dis pas plus.
Tant qu'il finit pas avec Haïdé, ça va. Hein.
Et je me rappelle qu'il y a une nouvelle adaptation qui arrivera peut-être même avant, sérielle cette fois, France 2 coproduit, donc c'est un truc européen, ce sera en plusieurs épisodes avec Sam Claflin dans le rôle titre, donc pourquoi pas, on aura peut-être une autre raison de se rencontrer, les amis.
Adaptation de quoi ?
De Monte Cristo.
Et il va y avoir deux adaptations de Monte
Cristo. Il y aura celle française en film, un seul film je crois, et donc un projet
D'accord, Pierre Niney, c'est en film.
Oui.
D'accord.
Je crois.
Juste pour dire aussi que Pierre Niney, moi, je le vois pas du tout en Edmond, en fait. Je sais pas. C'est
au début, jeune, oui.
Au début du bouquin, c'est un gars qui est très typé provençal, très cheveux bruns, très très du sud, en fait.
Il peut prendre l'accent, je pense.
Non, mais il est extrêmement, il est blanc comme un cul avec des yeux bleus. Enfin, moi, je le vois pas. Et il fait un peu asperge. Et après, c'est un dilf. Après, Edmond, c'est genre, c'est un dilf. C'est un peu un Silver Daddy, tu vois. Donc, je sais pas. Enfin, si ça se trouve, il sera très bien. Mais en même temps, je m'en fous.
Ah, j'ai confiance.
J'ai pas envie de le voir. En fait, j'ai rien envie de voir. J'en ai marre. Ils m'ont trop dégoûté, en fait.
Nous verrons. Dernier appel pour d'éventuelles questions dans la salle. Oui, bah j'arrive. Il y en a deux.
Bonsoir à tous. En fait, c'était pas vraiment une question, mais plutôt une rectification. En fait, ce sont bien les auteurs du prénom qui ont réalisé le scénario des Mousquetaires Bourboulon. Et du coup, c'est une véritable déception pour moi qui adore le prénom de me dire « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, les mecs? Franchement, qu'est-ce que vous avez fait ?»
On verra ce que ça donne. Hein. On va laisser sa chance, lui aussi. La deuxième question, c'était... Hop.
Alors, je vais dire trois trucs. Désolée de prendre le mic, mais bon, voilà. Première, Ostrerec pour Le Comte de Monte Cristo, la série avec Weber, c'est ça. Jacques Weber, qui est vraiment très très bien, même si c'est jeu dramatique français des 70s, je crois. Enfin bon, très très bien. Eugénie est lesbienne dedans aussi. Un autre point, c'est que je ne vous ai pas vu souligner, mais que ça m'a surpris d'apprécier dans le film. Le duel entre Milady et D'Artagnan sur la fin, il y avait un espèce de, comment dire, d'ironie tragique shakespearienne presque dans le fait qu'il la prend pour responsable de la mort de machin. Vous avez souligné que c'était un peu absurde. Moi, je comprends vu le personnage qu'on lui a planté avant. Et c'est très rare en fait qu'on ait des duels physiques. Alors c'est pas cool que la Milady du film soit vraiment pas intellectuelle et juste un peu une machine à patates qui se prend des patates et tombe comme une merde. Mais voilà. Mais là, ce duel, j'étais comme, mais c'est rare en fait, un homme, une femme qui font vraiment à égalité. C'est pas érotisé et tout. Enfin, j'étais très agréablement surpris. Après, bon, c'est illisible, caméra à l'épaule comme d'hab, mais il y a cette qualité que je peux reconnaître. Après, comme d'hab, elle tombe comme une merde sous une pluie de gravats. Ça arrange bien pour finir la scène, mais il y avait cette qualité. Dernier truc, ça, c'est une question pour votre grand savoir. La scène de l'œuf, tout de suite. J'ai pensé à un excellent film de KPDP qui est Fanfan la Tulipe, où il y a la scène des œufs du roi, où c'est Bourdon, du coup, qui joue le roi. C'est pas la même époque, je crois que c'est Louis XV, et qui se fait apporter ses œufs du roi sur le champ de bataille et qui doit choisir son œuf. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que juste, historiquement, les hommes politiques un peu glorieux prenaient des œufs sur le champ de bataille?
Je pense que c'est pour inverser la scène du petit-déj, en fait. Justement, parce que les mousquetaires, normalement, dans le bouquin, prennent leur petit-déjeuner et Richelieu les surprend pendant. Et là, je pense que c'est juste, ils se sont dit « Ah, ben, on va quand même faire la scène du petit-déj », sauf que cette fois, c'est Richelieu qui en a rien à foutre et qui a un œuf à la coque, et D'Artagnan qui est en Dax, je sais pas.
Je pense que tu intellectualises beaucoup trop cette scène.
Ça pourrait être ça, hein.
Alors, moi, c'est une séquence pour répondre à votre question. Les hommes politiques mangent des œufs, ils s'en prennent aussi. Richelieu, je pense que s'il s'était pris des œufs, il aurait fait pendre les gens. Mais la séquence, moi, je l'ai assez appréciée. Je la trouvais plutôt bien tournée. Belle photo. Pour le coup, le personnage de Richelieu était vraiment mis en avant, alors que généralement, il est un peu noyé dans la masse. Il ne fait pas Richelieu. Là, c'est vraiment le Richelieu de la toute-puissance.
Bon, je le trouve un peu pathétique quand même.
Mais
en fait,
voilà. Maintenant. Bon,
parce qu'en plus, il dit à D'Artagnan, vous me paierez cette offense, et en fait, pas du tout.
C'est ça que j'ai compris. Pour moi, c'est une préparation paiement pour une suite, en fait. C'est ça que j'ai compris.
Rien que le fait qu'il autorise à se faire mettre en joue par le premier freluc qui est venu, ouais. Pour moi, ça lui enlève 50 points de charisme direct.
Sachant que moi, cette séquence, ça m'a fait penser à une autre séquence dans un autre film, un peu comme vous. Il était une fois la Révolution, où là-dedans, dans ce film-là, vous avez un personnage qui est donc l'antagoniste hein, des héros du film, si j'ose dire. Bon, je simplifie, et cet antagoniste, c'est une espèce d'officier allemand joué par un acteur qui a souvent joué des SS hein, dans les films des années 60-70. Et cet officier allemand, il est là pour écraser une révolution au Mexique, visiblement. Et à un moment, il y a une séquence où on le voit bouffer un œuf, mais carrément en bousillant la coquille, en prenant l'œuf littéralement en avalant le jaune d'œuf dans sa bouche. Enfin, c'est assez crade. Et ça montre.
J'ai vu une e-girl faire ça sur voilà. TikTok aussi.
et vraiment, peut-être que les scénaristes, les réalisateurs n'ont pas du tout pensé à cette séquence, mais moi, j'y ai pensé direct parce que pour moi, ça caractérise un peu les méchants qui mangent bizarrement. C'est pas comme les méchants de James Bond qui accueillent James Bond à leur table et qui leur disent voyez ce foie gras, etc.
C'est comme la tomate cerise de Demeter, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, qui mange des tomates cerises de façon extrêmement sale.
Pour moi, ça renvoyait presque à ça. Alors Richelieu le fait ici de manière un peu plus digne, mais J'avais envie de dire bon avoir, putain en fait. Mais mange ton putain d'œuf quoi, au lieu arrête de l'écailler à la vitesse de 2 à l'heure parce que tu vas mourir de faim et La Rochelle ne tombera jamais. Mais voilà, je pense que voilà, si vous voyez des méchants manger des œufs dans les films de manière bizarre, ben ça veut dire qu'ils sont vraiment infects en réalité.
Les œufs c'est la vie, eux c'est la mort. Non et puis je suis d'accord avec toi, c'est rare effectivement qu'on ait un duel comme ça entre protagoniste versus méchante du film. Par contre, un des motifs récurrents de ce film, c'est la délectation qu'ils ont dans la violence envers les femmes. Parce que vraiment, ce moment où D'Artagnan est par-dessus Milady en train de l'étrangler, enfin, je sais pas, moi j'étais là, genre, c'est un peu overkill. Enfin, je sais pas, il y a toujours ce côté très bizarre, décalé, dégueulasse que j'ai ressenti du coup face au premier film quand il y avait Notre-Dame du Bataclan, où en fait c'était caméra au sol, derrière les sièges, des coups de mousquet à répétition, les gens qui crient, etc. Et là, voilà, le fait de voir plusieurs fois la fausse meuf, la fausse Milady se faire pendre, voir Constance se faire pendre, avoir son agonie encore derrière, avoir D'Artagnan qui se met au-dessus de Milady et qui l'étrangle, je me dis, purée, alors le bouquin, c'est pas pour les enfants de cœur non plus, mais je me dis, Je retrouve pas la légèreté que je veux non plus là-dedans quoi. Et vraiment la souffrance des meufs, c'est la seule structure que je reconnais à ce film. Il y a une délectation dedans que je trouve hallucinante, vraiment.
Moi, je tiens à souligner aussi un truc en parlant de ça, c'est que les deux films, le premier et le deuxième, ils ont exactement, techniquement, le même cliffhanger de fin, à savoir, on croit que Milady est morte. D'abord parce qu'elle saute d'une falaise et puis elle est écrasée par des flammes. Et le cliffhanger, c'est non, elle n'est pas morte.
Aucun élément ne pourra voir sa peau.
Ah non, elle est crevable.
Et cela dit, merci d'avoir souligné que la caméra à l'épaule est un petit peu compliquée. Au troisième rang, c'était...
Ouais. J'avais mal au cœur, mal au cou. Enfin, c'était un enfer.
C'est un peu lisible, effectivement. Au troisième rang, vous avez dû souffrir. Hein.
Alors heureusement, il n'y avait pas trop de scènes d'action, finalement. Donc,
ce qui est un peu dommage, même si j'ai eu l'impression qu'il se donnait un petit peu, quand même, pendant ces scènes d'action. Je crois qu'on en a terminé, à moins qu'on ait une dernière question. Oui. Deux. Allez, faites vite, j'arrive.
Alors, c'est moins une question qu'une remarque, parce que vous avez parlé de à quel point ce film ne savait pas où il voulait aller et s'il voulait aller quelque part. Manifestement vers d'autres adaptations, mais bon, il faudrait déjà réussir à faire quelque chose avec le matériau de base. Et il y a quelque chose qui m'a frappé à un moment dans le film, et après, je n'ai pas pu voir autrement. En fait, D'Artagnan, il me rappelle Yvain et Gauvin de Kaamelott.
C'est un petit pédestre.
Et c'est terrible, parce qu'il est jeune dans les Trois Mousquetaires, mais il n'est pas bête, c'est un gascon.
C'est vrai, et en plus il a ce côté un peu con aussi, il ne sait pas ce qui lui arrive.
Madame, vous voulez quoi? Trop nul, les poils de jambes.
Trop top. Oh, la fleur de lys, oh là là.
Il y a une taupe sur TV Taupe qui lui correspond tout à fait en termes de construction de personnage, c'est Pinball Protagonist. C'est quand tu as un personnage principal qui concrètement ne fait qu'être balancé d'un endroit ou un autre sans savoir où il va. Parce que,
comme une balle de flipper.
Ben, c'est ça. Et lui, c'est vraiment ça. Il n'a aucun point d'initiative. Quoi. Vraiment, c'est un Sims. Tu lui as mis le curseur à zéro et il ne sait pas où il va.
Et enfin.
Moi, je voulais revenir sur un truc qui m'a fait tiquer et qui vous avait fait tiquer aussi dans D'Artagnan. Vous aviez parlé du fait que, pour une raison qui vous échappait, ils avaient utilisé pour Athos le nom du personnage historique, qui est Armand de Silec d'Athos d'Hauteville, alors que dans le livre, il s'appelle Olivier, comte de la Fère. Et là, ils l'ont appelé comte de... Enfin, c'est pas dit explicitement, mais quand il va chez lui, il y a écrit Domaine de la Fère. Et je me suis dit, pourquoi Domaine de la Fère ? On ne nous l'a pas présenté comme comte de la Fère. Sur la tombe, il y a de Milady. Il y a écrit Anne, je sais pas quoi, de la
Anne
Fère.
De Breuil.
Anne de Breuil. Et il y a écrit la Fère. Enfin, ça sort d'où ? Pourquoi ils ont rechangé son prénom ?
Sachant qu'il l'a publiquement dénoncé, encore une fois. Enfin, moi, l'histoire de la tombe dans son jardin, je m'en remettrai jamais. Hein, c'est genre, c'est dingue.
Il y a qui dans la tombe ? Qui est dans la tombe ? Il n'y a pas de tombe. Mais ça se trouve, c'est un tueur.
Officiellement, le gars a dénoncé la mère de son enfant, l'a envoyé se faire pendre. Oui, mais je veux dire, et après, juste imagine l'état d'esprit qui te dit, soit il a récupéré un cadavre, il l'a foutu dans son jardin et il a mis une tombe en disant, voilà, c'était ma femme. Et c'est genre, mais ça devait être assez public, en fait, que tu l'as dénoncé publiquement. Genre, il est passé par la justice, contrairement au bouquin. Dans le bouquin, il la bute lui-même. Mais la zinzinerie qu'il faut pour une fois que tu as dénoncé ta femme qui est une criminelle, qui a été marquée et qui a été pendue, et tu la fous dans ton jardin, c'est quoi ?
Non, mais on en revient à cet Athos, c'est monstrueux.
Ah oui, non, mais il est zinzin.
Mais il est tellement monstrueux qu'il change de nom, en fait.
Oui, et puis, enfin, il y a toujours dans le côté onomastique, c'est Aramis, c'est chevalier d'Herblay, mais tout le monde l'appelle Aramis. C'est très bizarre. Même sa sœur. Sa sœur Mathilde, c'est Aramis et Mathilde. C'est, les parents, ils étaient zinzins aussi, en fait.
Alors qu'il s'appelle...
René,
merci.
Mon mari René.
Il y avait un truc aussi à propos de Porthos.
Et Porthos, oui, Porthos dit Isaac. Il s'appelle Isaac. Ouais. Alors pareil, ils l'ont appelé Bracieux de Pierrefonds. Duvalon Bracieux de Pierrefonds. Ce qui est bizarre aussi, parce que pareil, c'est genre... Enfin, je crois pas... Parce que t'as Isaac Bracieux, qui est probablement le perso historique, mais dans le bouquin, il me semble qu'il est Duvalon.
Oui, c'est Duvalon dans le livre, effectivement.
Il achète le titre Bracieux de Pierrefonds, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus, enfin, bref, on s'en fout. Mais c'est juste que c'était là aussi une espèce d'ensemble étrange, en fait, même par rapport au personnage historique.
Oui, c'est étrange qu'ils ne choisissent pas... Généralement, dans la plupart des films, on ne donne pas leur vrai nom. On reste à Porthos, Aramis et Athos. Mais quand on le fait, on part du principe que Porthos, Aramis et Athos, c'est clairement des noms de guerre. Donc, c'est leur vraie identité. Là, il y a une sorte de mixte où on a l'impression que...
C'est leurs identités secrètes.
Non, c'est pas l'identité secrète, il les balance à tout le monde dans le.
C'est comme Iron Man, hein, vraiment. Ils ont tout révélé. Quoi.
C'est marrant parce que j'ai dit, on n'est absolument pas des puristes, hein, mais bon.
Non, mais ça, c'est juste un petit peu bizarre. C'est-à-dire, effectivement, oui, c'est pas des vrais prénoms. Il y a un mixte bizarre où ça sonne bizarre. Ouais, ça sonne étrange, je sais pas.
Et je crois qu'on en a terminé. Aussi, bah, je vous demandais de saluer nos trois invités. Nos quatre invités avec.
On a oublié Cassos.
Avec Cassos. Je rappelle très rapidement Rutile, Colossal en librairie, bientôt de nouveaux projets de webtoon sur la plateforme Ono. Nico, La guerre germano-soviétique d'une part et La guerre du Pacifique d'autre part, tous les deux en deux tomes chez Talendier. Et bientôt nouveau bouquin. Sarah, bientôt une publication avec un peu de chance. Quant à moi, bah, je vous invite à vous abonner au podcast Hommage Collatéral et à laisser votre petite note, un commentaire si vous avez apprécié ce que vous avez entendu ce soir. À aller écouter les autres émissions qu'on a fait sur Alexandre Dumas. Il y en a donc un double numéro qui revient sur toute sa carrière avec Isabelle Safa, qui était la présidente adjointe de la Société des Amis d'Alexandre Dumas. C'était Érudit mais cool. Le podcast propose aussi d'autres types d'émissions. Le dernier en date... portait sur la série Doctor Who avec d'autres experts, et l'année prochaine on fera des trucs très variés, notamment sur les livres dont vous êtes le héros. Donc vous voyez, c'est vaste. Je vous souhaite de bonnes écoutes par avance et évidemment très belles fêtes. Et pour conclure, un grand merci à l'UGC Bercy de nous avoir accueillis. Merci notamment à Léna, à Natacha, à Tony et à Jafar. Je vous laisse tranquille. Merci à toutes et à tous. Bon appétit et à bientôt. Ouais. Thank you.
Bonus.
Trax.
Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes? Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des Légendes. Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane la Fée, Elric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label.
Bonus.
Trax.